When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.
Joyeuse Pâques à tous nos téléspectateurs qui célèbrent cette fête aujourd'hui. Ravi de vous accueillir dans la matinale week-end. On est ensemble jusqu'à 9h pour de l'info, de l'analyse, des débats avec bien sûr l'excellente Marine Sabourin qui m'accompagne. Bonjour Marine.
Bonjour Anthony, bonjour à tous.
On poursuit tout de suite avec l'éphéméride de ce jour de Pâques avec Alessandra Martinez.
Détendez-vous devant votre programme avec Stressless, des fauteuils, des canapés et des chaises au design norvégien et au confort unique.
Chers amis, bonjour. C'est Pâques aujourd'hui et les chrétiens du monde entier sont dans la joie. Alors bien sûr, on parle de cloches volantes, de lapins au sucre, de poules, d'œufs et les petits vont partir à la chasse au chocolat. Tout ceci est très sympathique, mais il ne faudrait pas que cela nous fasse oublier ce que signifie vraiment cette fête de Pâques qui plonge ses origines dans la fête juive de Pessah. Trois jours après avoir été crucifié sur la croix, Jésus, vrai homme et vrai Dieu, est ressuscité d'entre les morts. Son corps physique, matériel, a repris vie, il a quitté son tombeau. Par sa résurrection, il dit à l'humanité que la mort n'aura pas le dernier mot. Pâques ouvre de nouveau à l'homme et à la femme les portes du paradis. Saint Paul le dira plus tard, « Si le Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. » Tout est là. Pour celui qui a la foi, Pâques est synonyme d'une joie immense et d'une espérance sans fin. Je vous laisse avec cet extrait de l'épître de saint Paul qui est lu aujourd'hui. « Quand paraîtra le Christ, vous paraîtrez avec lui dans la gloire. » Je vous souhaite à tous de très joyeuses fêtes de Pâques. À demain, chers amis.
Détendez-vous, confortablement installé. C'était votre programme avec les fauteuils et canapés Stressless.
Alors, je n'ai pas que l'excellente Marine Sabourin sur ce plateau. J'ai plein d'autres surprises également pour vous. Guillaume Bigot, comme à son habitude, toujours là, fidèle au rendez-vous. Bonjour mon cher Guillaume.
Mais bonjour à vous et bonjour à tous.
Comment allez-vous ce matin ?
Très très bien.
Bon, vous avez prévu la chasse aux œufs en chocolat dans la journée
Les enfants, je pense, sont
déjà... Les grands-enfants aussi ont droit aux œufs en chocolat. Moi, je ne dérogerai pas à l'exercice. On ne va pas tout leur laisser. Vous avez bien raison. Michel Taub qui nous accompagne.
Bonjour, joyeuse Pâques à toutes et tous.
Et un autre Michel à vos côtés ce matin. Ah, oui. Michel Chevalet.
Mais oui.
Grand Michel.
Alors, pourquoi je vous ai fait venir ce matin?
Les cloches sont de retour, quoi.
Les cloches. Je ne me serais pas permis, mon cher Michel. Non, mais parce qu'on va parler d'un œuf. On va parler d'un œuf un peu plus gros, c'est la planète Terre. Ouais. Il tourne un peu plus vite. Bon, j'en dis pas plus. Tout de suite, la météo, Karine Durand.
La météo avec Groupe Verlaine. Installateur de panneaux photovoltaïques garantis à vie avec contrat de maintenance. Groupe Verlaine, le climat de confiance.
Retrouvez la météo avec Body Minute. Un réseau de 500 franchisés femmes au service de votre bien-être.
Bonjour Karine, ce dimanche matin marqué par l'alerte rouge au cru, et d'ailleurs elles ont déjà commencé.
Oui, deux départements placés en vigilance orange. Le pic de crue s'est a priori produit au cours de la nuit avec ces deux départements, l'Indre-et-Loire, la Vienne, en raison de la crue du cours d'eau de la Creuse, justement, avec des hauteurs remarquables ces dernières heures. Il y a également des départements placés en vigilance orange, la Charente, la Charente-Maritime ou encore la Dordogne, et puis aussi les Alpes-Maritimes, cette fois-ci, pour le risque d'avalanche après les fortes chutes de neige tombées ces dernières heures. Grande prudence à tous. La situation est vraiment très agitée quasiment partout en France pour ce dimanche de Pâques. Il faut notamment se méfier ce matin de ce qui se passe du côté des Cévennes avec cet épisode cévenol et méditerranéen, de très fortes pluies en cours, des pluies orageuses jusqu'à possiblement 200 mm de précipitations d'ici ce soir sur les Cévennes, et puis également d'abondantes chutes de neige sur les Alpes-Maritimes et un fort risque d'avalanche. À l'ouest, c'est un peu plus calme temporairement, mais quelques averses orageuses ne vont pas tarder à éclater à nouveau. Au cours de l'après-midi, on retrouve encore cette dégradation perturbations sur le sud-est qui a tendance à se décaler de plus en plus vers la Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et regardez ce qui se passe sur la moitié nord, de la pluie pour la chasse aux œufs notamment, avec de fortes averses orageuses, du vent généralisé, un risque de coups de tonnerre et même parfois de grêle localement. Quasiment personne ne va échapper au mauvais temps au final. Les températures sont assez classiques ce matin, avec 8 degrés à Paris, 5 degrés à Nancy, 13 degrés à Marseille et 11 degrés pour Bastia. Et au cours de l'après-midi, les valeurs sont de saison, mais le ressenti est vraiment très mauvais avec la pluie et avec le vent. Au cours de l'après-midi, on retrouve donc des valeurs globalement de 14 degrés pour Paris, 16 degrés pour Lille, 14 du côté de La Rochelle et 12 degrés pour le Puy-en-Velay.
C'était la météo avec Body Minute, un réseau de 500 franchisés femmes au service de votre bien-être.
Chaud l'été, froid l'hiver, c'était la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupeverlaine.com.
Encore joyeuse Pâques, excellent réveil à tous sur CNews. À la une de votre journal de 7h, la menace terroriste au plus haut avec un attentat déjoué contre Notre-Dame de Paris. Une tentative qui porte la marque de l'État islamique dont la propagande ne faiblit pas. Un Égyptien de 62 ans a été interpellé, ce sont les infos dévoilées ce matin par nos confrères du JDD. Gérald Darmanin fait le bilan des opérations PlaceNet XXL menées depuis une semaine. Plus de 1700 interpellations, 150 kilos de drogue saisies. Le Premier ministre prévient, ce n'est pas fini. Dès demain, les affaires reprennent. Les syndicats de magistrats dénoncent des opérations pichenettes, insuffisantes. Qu'en pensent mes éditorialistes sur ce plateau? On leur posera évidemment la question. Ils sont de plus en plus nombreux à pousser les portes des églises pour devenir catholiques cette année. En ce week-end de Pâques, plus de 12 000 personnes se font baptiser, 31% d'adultes en plus, 50% d'ados. Nous avons suivi hier soir deux nouveaux catholiques pour leur baptême, Jacques et Mathieu, et nous expliquent leur parcours vers la foi. Et puis nous avons le plaisir de recevoir Michel Chevalet ce matin, je vous le disais, notre spécialiste des questions scientifiques. On a pu lire cette semaine dans la presse que la Terre tournait étrangement de plus en plus vite. Vous nous expliquerez, Michel, les raisons de ce phénomène, ici, à la fin de ce journal. On commence tout d'abord avec cet attentat déjoué contre la cathédrale Notre-Dame de Paris. C'est une information publiée par le JDD ce matin. Un Égyptien de 62 ans a été interpellé le 5 mars dernier à Paris.
Il a été mis en examen pour association de malfaiteurs terroristes criminels trois jours plus tard, le 8 mars. C'est le deuxième projet d'attentat déjoué depuis le début de l'année 2024. Tout ce qu'il faut savoir avec Mathilde Ibanez et Axel Rebaud.
Un drame évité de justesse. La cathédrale Notre-Dame de Paris était la cible d'un projet d'attentat. Le suspect est un homme âgé de 62 ans, de nationalité égyptienne. Il a été interpellé par les policiers de la Direction générale de la sécurité intérieure le 5 mars dernier et a été mis en examen pour association de malfaiteurs terroristes criminels. Des menaces contre les lieux de culte qui inquiètent les Français en ce week-end de Pâques.
Bah forcément, c'est quand même un monument avec un sacré héritage, une histoire, mais comme pour beaucoup de monuments à Paris.
Pour moi, Notre-Dame, c'est un peu ça, c'est un symbole auquel se raccrocher en tant que Français ou en tant que Française.
Car depuis l'attentat à Moscou, les menaces contre la France sont de plus en plus importantes.
Alors, le ministère de l'Intérieur a répondu au JDD et il nous a affirmé qu'il prenait les choses très au sérieux, qu'il assurait la sécurité des Français. Voilà, en nous rappelant que les effectifs de la DGSI ont été doublés puisqu'on est aujourd'hui à près de 5000 agents. Le budget aussi a augmenté de 50%.
En plus du soixantenaire, quatre autres personnes ont également été interpellées, dont un jeune homme de 14 ans. D'après l'enquête réalisée par le JDD, les cinq individus n'auraient aucun lien direct entre eux, mais feraient tous partie de la même branche de l'État islamique, le Khorasan.
L'État islamique au Khorasan, effectivement, c'est la branche la plus active et la plus aujourd'hui influente de l'État islamique. Et ils jouissent pour ça de deux qualités. La première qualité, c'est un pouvoir de propagande très fort. Leur autre force, c'est de savoir exploiter des failles logistiques du monde occidental, notamment en détournant les routes migratoires.
Pour protéger les Français en ce week-end de Pâques, c'est près de 10 000 policiers et gendarmes qui sont fortement mobilisés devant les zones jugées à risque.
Alors un attentat déjoué qui porterait donc la marque de l'État islamique au Khorasan, une branche de Daesh implantée en Afghanistan. C'est un groupe réputé ultra-violent déjà sur place en Afghanistan. Deux éléments intéressants qui nous sont donnés par le journaliste du JDD ce matin. Sa capacité à exploiter nos failles en matière d'immigration et la force de sa propagande. On voit d'ailleurs que dans cette affaire, il y a aussi un jeune de 14 ans qui a été interpellé.
Alors, au Khorasan, ça veut dire effectivement l'État islamique en Afghanistan. Ce qui est intéressant rapidement, c'est de se rappeler que le djihad finalement contemporain est né en Afghanistan. D'ailleurs, bien avant que la CIA n'aide les combattants contre l'Union soviétique, ça a été un des premiers foyers, ça s'est propagé partout. Et là, il y a une sorte de retour au point de départ. Même s'il faut dire que l'Afghanistan n'est pas contrôlé par l'État islamique, mais est contrôlé par les talibans, qui sont des rivaux ethniques, disons, de ce groupe au Khorasan, qui est pour le coup vraiment lié à l'État islamique. Et donc, ces combattants du Caucase, du Caucase, jusqu'à l'Afghanistan, d'Asie centrale, disons, se baladent dans tous les territoires de djihad. Là, on a deux types d'attentats, en fait. On a des attentats qui sont spontanés avec des gens qui se radicalisent tout seuls, et on a des attentats qui sont menés par des gens plus aguerris, qui ont été sur des foyers de djihad, qui sont susceptibles d'organiser des commandos et des attaques beaucoup plus rudes. Et là, il semblerait que ce soit quand même l'État islamique au Khorasan, celui qui est déjà fait parler de lui à Moscou et qui a déjà fait couler le sang, qui a tenté quelque chose d'assembler, en quelque sorte de bricoler un petit commando de 5 personnes, ce qui aurait pu être catastrophique. Maintenant, pourquoi Notre-Dame, c'est une évidence? D'abord parce que c'est un symbole bien sûr français, nous sommes en pleine fête de Pâques, c'est un symbole mondial, en plus la cathédrale va être rendue au public après les événements qu'on sait, et surtout, il y a quelque chose de caractéristique des djihadistes, c'est qu'ils sont des points de fixation. Souvenez-vous, au World Trade Center, ils ont essayé une fois, puis deux fois, jusqu'à ce qu'ils y arrivent. Notre-Dame, en 2016, a déjà été visée, et là, c'est dans leur viseur, en quelque sorte. Et les spécialistes expliquent que c'est parce qu'il y a aussi une dimension un peu religieuse. Une fois qu'une cible a été désignée, ils tendent à y revenir aussi pour des raisons religieuses, parce que c'est un peu idiot. Une fois qu'une cible a été ciblée, on peut se dire qu'elle va être bien protégée. Mais non, dans leur idéologie à eux, d'une certaine façon, c'est Allah qui a voulu, donc on y... Voilà, jusqu'à ce que ça marche, on recommence.
Il ne faut pas être naïf, candide. Aujourd'hui, il y a une nécessité vitale, je dirais, à contrôler les flux migratoires. C'est aussi ce que nous montre cette affaire.
Oui, tout à fait. Moi, je dis souvent qu'entre l'Afghanistan et l'Europe, il y a deux pays à traverser. Deux pays. C'est l'Iran et la Turquie. Or, ces deux régimes iraniens et turcs, utilisent avec complaisance et beaucoup d'intérêt, j'ai envie de dire machiavélique, ces routes migratoires, parce que beaucoup d'Afghans, effectivement, fuient le régime des talibans, ou alors sont des poissons pilotes du régime des talibans qui exploitent et qui utilisent et qui manipulent même des opposants pour envoyer effectivement vers l'Europe des apprentis, plus que des apprentis malheureusement, des terroristes. Et donc effectivement, ces routes migratoires, on pourrait citer une autre route migratoire, c'est le Sahel. Le désengagement de la France au Sahel ouvre une voie considérable à l'État islamique, alors à une autre branche de l'État islamique, pour pouvoir effectivement envoyer des terroristes vers l'Europe. Et puis, je dirais une dernière chose, c'est que parmi les cibles, on parle de Notre-Dame et de la France, mais les chrétiens dans le monde, on est le jour de Pâques aujourd'hui, les chrétiens dans le monde sont la cible, malheureusement, de beaucoup de terroristes. On évalue à 360 millions le nombre de chrétiens persécutés dans le monde. Plus de 5000 d'entre eux ont été assassinés en 2022. Donc les chrétiens font partie, malheureusement, des cibles des terroristes islamistes.
On peut en tout cas saluer le travail de la DGSI. Deux projets d'attentats déjoués depuis le début de l'année 45, depuis 2017. D'ailleurs, la France a expulsé hier matin Rachid Ait El Hadj, un homme âgé de 48 ans qui avait été condamné en 2007 pour des faits de terrorisme. Il avait ensuite été déchu de sa nationalité française en 2015.
Oui, et selon le Figaro, l'homme était encore en contact avec la mouvement djihadiste. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a déclaré hier dans un tweet: merci aux préfets, policiers, gendarmes et agents des services de renseignement, on se donne du mal mais mes efforts payent pour protéger la France.
Alors je voudrais qu'on s'arrête un tout petit instant là-dessus parce que bon, certes on se donne du mal mais je suis tout de même surpris par la temporalité de l'affaire, c'est-à-dire qu'on a un homme condamné pour terrorisme en 2007. Déchu de sa nationalité en 2015. On est en 2024 aujourd'hui, donc on est 9 ans plus tard. Entre-temps, il est soupçonné d'avoir eu des liens avec Sid Ahmed Glam, qui a tenté de faire un attentat contre l'église de Villejuif en 2015. Il a eu des contacts avec la Rossi Abala, qui était l'auteur de l'attentat de Magnanville, où deux policiers ont trouvé la mort. C'était en 2016, un couple de policiers. Donc, on peut se réjouir, certes, mais quand même, 2015, déchu de sa nationalité, 2024, il était toujours depuis lors présent sur le territoire.
Oui, et l'attentat initial, 2007, il y a 17 ans, c'est extrêmement grave. Moi, je me souviens, souvenons-nous, de François Hollande qui, au lendemain des attentats de 2015, avait proposé de déchoir la nationalité des terroristes. Et il y avait eu finalement un vent de fronde, notamment dans sa majorité, qui avait empêché de le faire. Effectivement, la justice est beaucoup, beaucoup trop
lente. Déchoir les terroristes de leur nationalité, puis les expulser ensuite, peut-être. Parce que là,
évidemment, mais le problème, c'est que la temporalité de la justice n'est pas celle, évidemment, de la sécurité de nos concitoyens. Et je pense que ça doit interroger quand même beaucoup de magistrats, dont il faut respecter, évidemment, l'indépendance. Mais tout de même, ils sont aussi des citoyens français et ils doivent participer à cette réaction collective dont nous avons tous besoin.
On va en parler justement des magistrats. Marseille, Lyon, Dijon ou encore Clermont-Ferrand. Gérald Darmanin fait un premier bilan de ces opérations XXL Place Net, lancées il y a une semaine, avec notamment ce chiffre, 1738 interpellations.
Un chiffre dont le ministre de l'Intérieur s'est félicité lors de son déplacement à Saint-Denis en région parisienne. Il assure que beaucoup de déferments et de mandats de dépôt ont eu lieu, mais pour l'heure, aucun communiqué n'a été publié concernant les suites judiciaires pour ces individus. On voit cela en détail avec Corentin Alonso et Sacha Robin.
À Saint-Denis, hier, Gérald Darmanin a dressé un nouveau bilan de l'opération Place Net XXL.
Les opérations antidrogue continuent à produire énormément d'effets. Nous sommes à 1738 interpellations au moment où je vous parle, dont 150 kilos de drogue qui ont été saisis avec notamment de l'héroïne et de la cocaïne, 2,4 millions d'euros d'argent. Et nous avons eu plus de 20 000 policiers et gendarmes mobilisés.
Annoncée d'abord à Marseille, l'opération Place Net s'est élargie cette semaine aux agglomérations de Paris, Lille, Dijon, Lyon et Clermont-Ferrand. Et le ministre a annoncé que ces opérations allaient se poursuivre.
Lundi prochain, trois nouvelles opérations antidrogue XXL auront lieu dans d'autres agglomérations françaises. Évidemment, je ne vous donne pas ces lieux pour permettre à la police et à la justice de faire son travail d'interpellation d'objectifs judiciaires, ce qui portera à neuf les endroits en France où nous mettons des moyens considérables.
Dans un communiqué, le syndicat de la magistrature dénonce une opération pichenette et exhorte le gouvernement à sortir de cette escalade inutilement coûteuse. De son côté, l'Association française des magistrats instructeurs juge ces opérations insuffisantes pour endiguer le trafic de drogue.
Alors, opération pichenette, opération insuffisante, opération com peut-être, Guillaume Bigot?
Par définition, c'est le but. Le but, c'est d'annoncer. Enfin, quand une opération est montée comme ça, XXL.
Si vous voulez, l'intitulé est très marketing, chose. On est d'accord.
Bah, il y a quelque chose de
la com n'empêche pas l'efficacité de l'opération, cela dit.
Meurt par la com en général. C'est-à-dire que la com, c'est un boomerang.
Alors, est-ce que c'est efficace ou pas, selon vous?
Ponctuellement, ça peut l'être. Mais tout le problème, c'est la temporalité. C'est-à-dire que ce sont des phénomènes qui sont enquistés, incrustés. Tant que vous avez une offre et tant que vous avez une demande, c'est d'abord une dimension. Il y a d'abord une dimension économique et commerciale. Si vous n'éteignez pas la demande, qu'elle est toujours solvable et qu'elle est toujours là, bah elle trouvera, un peu comme l'eau qui finit toujours par s'écouler, elle trouvera des moyens d'atteindre, l'offre trouvera des moyens d'atteindre la demande. Donc simplement, là, il y avait quelque chose d'extrêmement choquant, c'est-à-dire des points de deal au vu et au su de tous, qui étaient d'une certaine façon une contradiction formelle de la communication ministérielle en disant « nous allons attaquer les points de deal » et puis alors vous aviez des images deux points de deal au vu, au su de tout. Vous savez, dans des cités où les gens étaient fouillés à l'entrée, où vous aviez quasiment les tarifs des produits stupéfiants qui étaient tagués sur les murs. Donc là, ils se sont dit, non, mais ça fait désordre. Donc il faut qu'on attaque ça. Maintenant, personne n'est naïf. Les gens qui suivent ces dossiers, etc., ne sont pas naïfs. Ils savent bien que ce sont des opérations ponctuelles, que ça va se reformer ailleurs. Parce qu'il faut le dire, à chaque fois que vous démantelez un point de deal, c'est la concurrence, d'une certaine façon, qui va en profiter.
Et les premiers les plus dubitatifs sont notamment les habitants de la Castellane à Marseille, qui déjà, on le voit dans un article du Figaro ce week-end, disent que l'opération est peut-être utile, mais qu'elle ne change rien à leur quotidien et ne sont pas inutiles, comme vous l'avez dit, Guillaume Bigot, mais dérisoires face à l'ampleur, finalement, du phénomène. Et c'est ce que relèvent les gens sur place. Michel Taube.
Oui, enfin, moi, je m'étonne quand même de la réaction, certes prévisible, du syndicat de la magistrature, qui s'étonne de ces efforts faits par l'exécutif. J'ai l'impression qu'on revit la période des émeutes. Pendant les émeutes, il y avait une réaction de l'exécutif très forte. Il y avait eu de nombreuses interpellations. Peut-être pas assez pour certains,
très peu.
Mais il y en avait eu quand même. Mais le problème, c'est les décisions de justice derrière. Combien ont été déférés? Combien ont été mis en prison parmi ceux qui ont, par exemple, incendié des établissements scolaires? Donc là, je demande à voir. J'espère que Gérald Darmanin fera prochainement, allez, dans un mois ou deux, avec le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, une conférence de presse pour dire combien Des 1738 personnes interpellées à ce jour ont été véritablement condamnées par la justice.
Et combien de places de prison disponibles ?
Ça, évidemment, mais ça, c'est un désengagement déçu d'Emmanuel Macron depuis 2017.
Et il est 7h15, c'est donc l'heure du rappel de l'actualité. Marine Sabourin.
Cette terrible histoire, une adolescente de 13 ans est décédée mercredi à l'hôpital où elle avait été admise 3 semaines plus tôt après avoir été violée à Rantigny dans l'Oise le 6 mars dernier. 3 personnes ont été mises en examen le 19 mars pour viol commis sur une mineure de 15 ans par un majeur avec différence d'âge d'au moins 5 ans. La saisine du juge d'instruction a été étendue à la qualification de viol ayant entraîné la mort. Le violeur présumé majeur a été placé en détention provisoire. La France va livrer à l'Ukraine des centaines de blindés, anciens mais encore fonctionnels. Il s'agit d'un nouveau paquet d'aide envoyé à Kiev, selon Sébastien Lecornu, ministre des Armées, dans un entretien à la Tribune. Ces blindés sont en train d'être remplacés par l'armée de terre française par des blindés nouvelle génération. Paris va également débloquer un lot de missiles Aster. Et puis à Rome, le pape François a présidé la veillée pascale à la basilique Saint-Pierre. Il avait annulé sa présence au chemin de croix du vendredi saint, relançant les interrogations sur son état de santé. Ce matin, il célébrera la messe du jour et procédera à la célèbre bénédiction Urbi et Orbi.
C'est lié justement face à la perte de sens dans notre société, l'insécurité croissante, qu'elle soit physique, matérielle ou encore culturelle. De plus en plus de Français se tournent vers la foi, la spiritualité. De plus en plus de Français. 12 000 personnes se font baptiser en ce week-end pascal, 31% d'adultes en plus et 50% d'ados.
Oui, hier soir, à l'occasion de la messe pascale, nous avons suivi deux d'entre eux, Jacques et Mathieu. Ils ont sauté le pas et se sont fait baptiser dans la paroisse du Saint-Esprit dans le 12e arrondissement de Paris. Le reportage d'Antoine Durand avec le récit de Juliette Sadat.
Le moment est solennel pour Jacques, retraité, franco-libanais, né musulman. En ce week-end de Pâques, il se fait baptiser et entre dans la vie chrétienne.
J'attends ça depuis 3 ans. Je suis né musulman, sunnite. Mais le problème, c'est que bon, l'islam, c'est quelque chose de noble. Mais j'ai vu à l'église qu'il y avait amour, respect, pardon et tolérance. C'est pour ça que je choisis ça.
Comme Jacques, ce sont plus de 7000 adultes et adolescents qui sont baptisés ce week-end. Un chiffre en hausse par rapport à l'année dernière.
On a une part croissante de ceux qu'on appelle un peu les non-religieux, les sans-religion, c'est-à-dire des personnes qui n'ont absolument rien en héritage, mais qui vont découvrir les choses petit à petit, au contact du monde, particulièrement par Internet.
Comme de nombreuses personnes de sa génération, Mathieu n'a pas été baptisé. C'est sur Internet qu'il s'est rapproché de la religion catholique. Cette journée, il l'a attendue depuis longtemps.
Je suis enthousiaste à cette perspective et impatient, mais réservé par rapport à cet événement.
Une tendance à la hausse ces dernières années, mais l'Église catholique continue de déplorer une perte de vitesse en France. En 20 ans, le nombre de baptêmes a diminué de moitié.
Ça vous surprend, Michel Taupe, cette recherche de spiritualité peut-être croissante ?
Non, et c'est un agnostic qui vous le dit. Il y a un retour de demande de spiritualité pour nos concitoyens. Et je pense que c'est une bonne chose parce qu'on n'est pas que dans un monde matériel, on est dans un monde de conviction, de vision, d'avenir, d'espoir. Et donc je pense que nos concitoyens sont à la recherche effectivement de spiritualité, certains vers le christianisme, d'autres vers d'autres philosophies ou d'autres religions. Mais c'est, voilà, c'est cela aussi être humain.
Guillaume Bicot.
Je vais citer mon vieux maître Jean Béchler, qui était lui-même l'élève de Raymond Aron, grand sociologue à la Sorbonne, qui expliquait qu'en fait, la déchristianisation, il y avait un phénomène de trompe-l'œil. C'est-à-dire, expliquait que dans la pratique religieuse, il y a un élément, disons, des sociétés traditionnelles, et il y a un élément de conviction spirituelle. Et que ce qui se passe avec la modernité, c'est vraiment la dissociation des deux. C'est-à-dire qu'ils ne vont plus à la messe et ne pratiquent plus que ceux qui sont réellement convaincus. Tandis que ceux qui allaient par habitus n'y vont plus. Et en fait, il y a un décalage dans le temps, parce qu'une religion comme l'islam, c'est encore une religion très traditionnelle. Et il y a beaucoup plus de gens qui y vont par habitude. Et ça, c'est finalement, ils sont un peu en arrière de la main, si j'ose dire, par rapport à un déroulement temporel. Là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un retour pour les raisons qu'évoque Michel, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un besoin de sens. Et là, encore autre chose, c'est que dans l'histoire tout court, quand les événements deviennent tragiques, parce que c'est la question de la mortalité en fait qui pousse les gens aussi à retourner à la religion, je pense que c'est pas sans lien. Le retour de la guerre en Europe, différentes sources d'anxiété après le Covid qui montent,
etc. L'insécurité.
L'insécurité tout court. Ça pousse les gens, et c'est plutôt bien, à avoir une vie intérieure, une vie spirituelle, à se poser des questions.
Beaucoup plus terre à terre cette fois avec Michel Chevalet, plus scientifique surtout. On va parler avec vous de cette nouvelle que j'ai lue cette semaine dans la presse, que vous avez sûrement lue pour certains d'entre vous, et j'ai pas tout compris. Alors c'est pour ça que j'ai fait appel à vous ce matin, Michel. La Terre tourne de plus en plus vite sur elle-même.
Elle tourne comme une patate, quoi.
voilà. Et alors, moi, j'ai eu beau lire des explications, ça m'a paru très très confus. Je me suis dit, il faut que je fasse venir Michel ce matin et qu'il nous explique tout très clairement.
Eh ben voilà.
Eh ben, allez-y.
Alors, le problème, c'est suivant. Vous savez que la Terre tourne sur elle-même très rapidement, hein. C'est une boule qui tourne très vite, à 1666 km par heure, à l'équateur. Hein.
Ah oui.
Ah oui, elle tourne très vite. Et au début de la formation de la Terre, elle tournait très vite. Elle s'est ralentie pour la vivre actuellement. Et ça décroissait. Ça décroissait de quelques microsecondes tous les jours. C'est indétectable. Sauf qu'on a des horloges atomiques qui sont beaucoup plus précises que la rotation de la Terre. Donc, la Terre se ralentissait. Et puis, disons, vers les années 50, elle s'est mise à s'accélérer. Et on n'a pas compris pourquoi. En fait, c'est ce qui se passe à l'intérieur avec les déplacements de masse autour du...
J'allais vous demander qui pilote tout ça.
Donc, elle s'accélérait. Et là, d'un seul coup, on dit, mais attendez, il y a quelque chose de nouveau. La fonte accélérée des glaciers, le Groenland et puis de l'Antarctique, c'est des milliards de tonnes de glace, eh bien, va au contraire freiner cette accélération. C'est-à-dire que la Terre accélérait et maintenant, elle a le pied sur le frein. Voilà la grande découverte, parce qu'on a des satellites et parce qu'on a des horloges atomiques. Voilà le problème. Alors, vous dire, qu'est-ce que ça vient faire, la fonte des glaciers?
Oui, j'allais vous demander, je ne comprends pas le rapport, et c'est ça qui m'a surpris.
C'est un problème de moment d'inertie. Alors, je vous l'ai fait très... On va prendre l'exemple. L'exemple, c'est la patineuse sur la glace. Il n'y a pas de frottement. Elle tourne sur elle-même. Lorsqu'elle veut s'accélérer, soit elle donnerait un coup de patin. Non, non, regardez bien, elle rassemble les bras le long du corps. Donc elle déplace les masses des bras le long du corps. Et à ce moment-là, elle s'accélère pour conserver la même quantité de mouvement. Et lorsqu'elle veut se ralentir, elle écarte, absolument, Guillaume, elle écarte les bras, c'est pas la résistance de l'air, elle écarte les bras, elle déplace des masses, les masses des bras et des mains, loin du corps. Et à ce moment-là, ça la ralentit. C'est ce qui se passe avec la glace. La glace fond, c'est-à-dire c'est des milliards de tonnes qui vont se transformer.
Donc la glace, c'est les bras, en fait. C'est les bras de la danseuse.
Exactement. Voilà. C'est exactement le même phénomène. Et donc ce phénomène va conduire à quoi? Quand la Terre se ralentissait, il fallait de temps en temps rajouter une seconde. Vous vous souvenez de ça? Eh bien là, maintenant, il va falloir enlever une seconde à l'horizon, disait scientifique, 2029. Alors, ça va, c'est très peu de choses, hein. Ça ne changera pas votre mode de vie, ce n'est pas un changement d'heure.
Mais, ah oui, mais, on l'a senti passer ce matin.
Mais oui, c'est un phénomène.
Marine, on l'a senti.
On le soupçonnait, mais on n'en avait pas la preuve. Mais maintenant, grâce aux satellites et grâce aux horloges atomiques, eh ben, on peut le détecter.
Ben voilà, c'était très clair, ça. Vous avez tous compris autour de la table.
C'était presque poétique, je trouve.
C'était pas la patineuse. Mais oui, mais surtout, ça interpelle.
Mais la science, c'est poétique.
Ça interpelle qu'on croyait... S'il n'y avait pas la Lune, un jour je viendrai vous l'expliquer, la Terre tournerait comme une toupie et basculerait sans arrêt. La Lune, eh ben oui, la Lune nous stabilise.
Elle fait un effet bouclier en plus. Hein, elle fait des effets boucliers extraordinaires, la Lune.
Voilà.
La poésie astronomique.
Il y a de la poésie. Hubert Reeves.
C'est très très beau. C'est très très beau. Merci, merci Michel. C'est pour ça qu'on vous a fait venir ce matin et c'est beaucoup plus clair pour tout le monde. J'espère que ça l'est aussi pour nos téléspectateurs. On va marquer une courte pause. On revient. On sera toujours dans les heures qui viennent avec Michel Chevalet et mes invités. On va parler cette fois d'un arrêté anti-mendicité dans la ville d'Amiens qui veut voilà, éviter la violence de certains SDF dans son centre-ville. Et notamment Amiens qui refuse aussi d'être le déversoir de la pauvreté d'autres agglomérations qui veulent évacuer leur SDF à l'occasion des Jeux Olympiques, justement. On en parle juste après la pause avec notre reportage. À tout de suite. De retour dans la matinale week-end, il nous a rejoint avec une magnifique veste ce matin, j'avais envie de le souligner, Bertrand Descartes, qui nous apporte le soleil qui nous manque sur la France aujourd'hui avec cette jolie veste.
Bonjour.
Bonjour Bertrand, merci d'être avec nous. On vous retrouve tout à l'heure à 7h45 pour la chronique royale. On est toujours avec Michel Taube sur ce plateau pour commenter l'actualité, Guillaume Bigot et l'excellente Marine Sabourin qui m'accompagne. Voici tout de suite les titres de votre journal de 7h30. À la une, face à la violence de certains SDF, la municipalité d'Amiens va tester l'interdiction de la mendicité. Elle sera circonscrite au centre-ville du mois de mai au mois d'août prochain. Amiens qui refuse d'être le déversoir de la pauvreté rejetée des grandes villes qui accueillent les JO au détriment des petits commerces de son centre-ville. Le reportage dans un instant. Cette polémique également, une humoriste de gauche chroniqueuse sur France Inter ou dans Quotidien qui encourage à prendre les armes en cas de victoire du Rassemblement National en 2027. Des propos graves qui n'ont pas été tenus dans le cadre d'une chronique humoristique mais le plus sérieusement du monde lors d'une conférence organisée par Mediapart. Illustration de la paresse intellectuelle d'une certaine gauche et qui laisse libre cours aux pires dérives. On en parle dans ce journal et on en débat sur ce plateau. Et puis à 7h45, je vous l'ai promis, ne ratez pas la chronique royale de notre cher Bertrand Descartes. Ce dimanche de Pâques, nous allons évidemment parler d'œufs, mais pas n'importe lesquels. Les œufs de Fabergé, ces objets précieux, rarissimes de la famille impériale russe, valent aujourd'hui des millions d'euros. On commence avec cette demande des commerçants du centre-ville d'Amiens. Un arrêté anti-mendicité. La municipalité vient de l'annoncer à titre expérimental à partir de mois de mai. Jusqu'au mois d'août.
Une décision qui fait suite au comportement parfois agressif de certains sans-abri. Si la mendicité n'est plus un délit depuis 1993, certaines municipalités déposent des arrêtés pour assurer la sécurité de leurs habitants. Reportage Charles Bagé avec le récit d'Aminata Demphal.
Cet arrêté interdisant la mendicité agressive, ces commerçants l'ont longtemps attendu. À Amiens, la maire a décidé d'agir face au fléau des sans-abri violents. Cette gérante salue l'initiative, plus que nécessaire dans le centre-ville.
Il y a des commerçants à côté qui n'en peuvent plus, ils se font insulter tout le temps. Nous, c'est pareil, quand on leur demande d'aller ailleurs, et l'alcool, la drogue, ils jouent pour beaucoup aussi.
Même constat pour cet opticien, témoin de scènes violentes avec les sans-abri.
Je trouve totalement anormal qu'effectivement quelqu'un qui vous réclame une pièce, si vous n'avez pas forcément de quoi lui donner, qu'il devienne violent, qu'il vous mette un coup de béquille ou qu'il essaye de vous faire un croche-pied en passant. Quoi.
Du mois de mai au mois d'août, les policiers municipaux pourront donc verbaliser les SDF au comportement agressif ou leur demander de partir. L'objectif de la maire, faciliter le travail des commerçants et assurer la sécurité des passants.
C'est expérimental, c'est limité dans le temps, c'est limité dans l'espace. Et puis on va faire un bilan ensuite pour voir si c'est utile, efficace ou pas.
Cette décision viserait notamment à décourager l'arrivée d'SDF chassés d'autres villes avant les Jeux Olympiques cet été. Et sur cet arrêté, les avis des habitants sont partagés.
La mairesse, elle a tout à fait raison de bouger à ce niveau-là pour montrer aux Amiénois qu'elle est là pour nous aider et pour revenir en centre-ville.
Plus on les écartera du centre-ville, moins il y aura de monde pour les aider. Plus ils seront seuls, plus ils seront en difficulté, plus ils auront mal à survivre.
Les rues du centre-ville amiénois concernées devraient être annoncées prochainement.
Alors insultes, violences sur fond de drogue et d'alcool, on peut comprendre l'inquiétude des petits commerçants, des centres-villes piétons comme ça. Moi je me souviens de ce qui s'est passé pour eux pendant les crises Covid, les crises des gilets jaunes, les manifestations diverses et variées dans le pays, peut-être aussi sur la réforme des retraites, mais souvent ce sont ces commerces-là qui sont les premiers affectés. Il y a aussi l'inflation récemment qui fait qu'il y a moins de clients. Alors si en plus on empêche les clients d'arriver dans ces zones piétonnes du centre-ville parce que c'est pas assez sécurisé, on peut comprendre cette volonté de vouloir écarter la mendicité.
Absolument, ça participe d'une violence urbaine, malheureusement, qui est devenue le quotidien de nombreux commerçants. Et vous avez raison d'insister, les petits commerçants de centre-ville souffrent déjà énormément. On se rappelle la période des gilets jaunes, le Covid, etc. Donc oui, il faut être à leur côté. Je sens la maire d'Amiens très très prudente en même temps. Elle dit que son arrêt anti-mendicité est très encadré, limité dans le temps, expérimental. Parce que malheureusement, vous avez de nombreux arrêts anti-mendicité qui ont été pris par d'autres maires, qui ont été souvent retoqués par la justice administrative. Et donc là aussi, il y a un problème de suivi de la justice par rapport aux besoins tout simplement légitimes des habitants de trouver des solutions contre toute forme de violence urbaine. Quant au déplacement de ces populations, ils vont être très importants dans les mois qui viennent. On l'a vu récemment à Orléans avec le maire Grouard qui s'est plaint que des migrants soient déplacés dans sa commune sans qu'il en ait été
habité. Ouais, c'est sûr que c'est terriblement injuste. C'est-à-dire qu'on a de grandes agglomérations qui ne veulent plus voir de SDF à l'occasion des Jeux Olympiques et qui là déversent un petit peu toute leur pauvreté et leur misère sociale dans des communes voilà, qui n'ont rien demandé et qui elles aussi peinent à faire vivre leur centre-ville, Guillaume Bigot.
Oui, comme vous le disiez tout à l'heure, à très juste titre, c'est même plus la double peine, c'est la triple peine, la quadruple peine. Enfin, ils ont et la concurrence du numérique, et la concurrence des grandes surfaces, et les effets gilets jaunes, manifestations, etc., et les effets inflationnistes. Enfin, ça commence à faire beaucoup pour ces commerces de centre-ville que, par ailleurs, l'État a essayé de réhabiliter. Et ensuite, moi, je suis républicain. Je pense que c'est très important que, en République française, personne ne soit laissé sur le bord de la route. Et en tout cas, c'est une question de dignité depuis la Révolution que les gens qui... Les indigents, on dit, les gens qui n'ont vraiment pas de quoi se nourrir, la collectivité nationale les nourrisse.
Vous avez raison, mais on ne fait que déplacer le problème.
Justement, voilà. Mais ça passe... Justement, ce n'est pas de la mendicité. Ce qui est important, c'est que tous les citoyens puissent venir un minimum à leurs besoins, en tout cas les besoins de base, enfin, se nourrir, etc., etc. Mais ça, on paye suffisamment d'impôts pour ça et ça marche. Donc, on comprend pas très bien pourquoi on se retrouve là. Mais on s'en retrouve là pourquoi? Un, parce que vous avez des problèmes de psychiatrie. Vous avez des gens qui n'ont pas de place en psychiatrie, ils se retrouvent dans la rue. Vous avez bien sûr des toxicomanes qui se retrouvent dans cette situation. Et puis, vous avez, il faut le dire, énormément de gens qui n'ont rien à faire là, qui sont des gens qui sont sans papier, qui se retrouvent dans la rue.
Très vite.
Il y a un couple d'illustres aminois dont je me demande ce qu'ils en pensent. C'est le couple Macron, qui aime bien aller certains grands week-ends ou les jours d'élection, aller se promener dans cette belle ville d'Amiens. Donc,
ou au Touquet aussi.
Oui, pardon. Excusez-moi.
C'est effectivement la ville, la ville d'origine d'Emmanuel Macron.
D'Emmanuel Macron.
Cette polémique, à présent, une humoriste qui encourage à prendre les armes en cas de victoire de Marine Le Pen en 2027. Mao Drama, c'est son nom, participait au Mediapart Festival diffusé en ligne le 16 mars dernier. Elle intervenait dans le cadre d'un débat intitulé « Comment lutter ?» contre l'extrême droite.
On le rappelle, cette jeune femme intervient régulièrement sur le service public, notamment France Inter. Plusieurs élus demandent la suspension de ses chroniques. Cette polémique est racontée par Corentin Alonso.
Le 16 mars dernier, lors du Mediapart Festival, l'humoriste de 30 ans participait à un débat sur le thème « Comment lutter contre l'extrême droite ?»
Est-ce que nous aussi on a des factions armées ? On se prépare à leur répondre ? Est-ce que l'on doit être radicaux jusqu'à ce point-là ? Est-ce qu'on doit faire la révolution ? Je ne pose que des questions, mais je trouve qu'elles se posent vraiment.
Avant de viser directement le Rassemblement National et Marine Le Pen, en imaginant une victoire du RN à l'élection présidentielle de 2027.
S'il y a l'accession au pouvoir de Marine Le Pen, on ne pourra pas juste continuer à mettre des affiches en disant « patriarcat caca ». Je ne sais pas me battre, je ne suis pas courageuse à ce point-là, mais si certains le sont, je ne peux que les encourager.
Une déclaration contre le Rassemblement National qui a fait réagir la députée du Var, Laure Lavalette, ce samedi sur X.
Devant ces propos d'une extrême gravité et diffusés par Mediapart, je saisis le procureur de la République sur le fondement de l'article 40 du Code de procédure pénale.
L'incitation publique à la violence est un délit passible d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
Alors, ce sont des propos graves. Au-delà de ça, j'ai envie de dire que c'est d'une paresse intellectuelle incroyable. Parce que si on veut combattre le Rassemblement national, on débat des idées, on argumente, on oppose. Mais là, aujourd'hui, on a une partie de la gauche qui passe son temps à dire qu'il faut un cordon sanitaire autour du Rassemblement national. On ne discute pas, on ne débat pas. Et puis, si le RN passe quand même, eh bien, on prend les armes. On marche sur la tête.
Oui, mais si vous voulez, c'est un peu, d'une certaine façon, il y a une logique là-dedans. Pourquoi débattre alors qu'on n'a plus d'arguments et alors qu'à l'évidence, comme on le voit en Grande-Bretagne, l'immigration elle sert d'abord à ne pas élever les salaires. Donc quand on se prétend de gauche, si vous voulez, il y a une erreur système. Ça n'a plus de sens. De plus, vous défendez une immigration qui est beaucoup touchée par, beaucoup musulmane, qui est traversée aussi et apportée à un islamisme qui est quand même la seule véritable extrême droite en France, en réalité, hein, patriarcale, homophobe, antisémite, etc. Donc tout ça n'a plus de sens, donc il faut trouver, c'est le fameux carnaval de l'antifascisme. Et ce qui est intéressant dans cette polémique, c'est si on voit bien le mécanisme du carnaval de l'antifascisme, c'est-à-dire c'est l'outrance, on grossit énormément, c'est même pas seulement que le RN, on le distingue plus du FN du passé, c'est que même le RN s'est considéré comme égal le fascisme des années 30. Bon. Deuxièmement, ce fascisme, d'après eux, il y a des groupes armés qui sont prêts à surgir avec des grenades, des mitraillettes, etc. et qui sont prêts à tuer tout le monde. Demain, si Marine Le Pen est élue, c'est ça, la légende urbaine qui se raconte, c'est que le sang va couler. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Bah, c'est la guerre d'Espagne, hein. Le carnaval de la guerre d'Espagne. Donc on va jouer à la guerre d'Espagne comme on joue aux Indiens et cow-boys. Tout ça est risible. Donc ce n'est pas drôle, hein, cet humour... je sais pas, de patriarcat caca, là, etc. Enfin, c'est vraiment un truc de cours de récréation. Et en plus, ce n'est même pas non plus, j'allais dire, il faut pas non plus monter sur nos grands chevaux ou les imiter dans le carnaval, parce qu'en réalité, elle dit elle-même, bon, elle est pas très courageuse, elle va pas prendre les armes, si certains veulent prendre les armes, puis après, elle se rend compte elle-même, elle a rétro-pédalé en disant, oui, bon, peut-être que c'est un peu grave ce que je raconte, mais je pense qu'on voit, on prend ces gens la main dans le sac, si vous voulez, de dire des choses auxquelles ils ne croient même pas eux-mêmes. Mmh. C'est vraiment le carnaval et c'est Mao drama queen, quoi, en fait.
C'est une incitation publique à la violence, dit le Rassemblement national. C'est passible d'une peine d'un an de prison, 45 000 euros d'amende. Ce sont donc des propos graves qui sont tenus.
Oui, bien entendu. Alors, cette pseudo-humoriste, en fait, selon moi, exprime tout haut ce que pensent beaucoup de personnes à l'extrême gauche. C'est-à-dire qu'effectivement, je pense qu'il y a une stratégie insurrectionnelle qui est mise en place, qui est déployée par de très nombreux acteurs conduits par, pour la plupart par la France insoumise.
Et c'est la défaite des idées.
Oui, ça, bien sûr que c'est la défaite des idées, mais je pense que dans leur démarche, et ce n'est pas une question d'idées, ce n'est pas une question de débat d'idées, il y a une stratégie de vouloir prendre le pouvoir, quitte à le déstabiliser et à déstabiliser les institutions en s'en prenant aux policiers, en s'en prenant effectivement à une force politique que l'on peut critiquer, avec laquelle on peut ne pas être d'accord, le Rassemblement national qui est tout simplement dans les sondages le premier parti de France. Donc finalement, vouloir prendre les armes contre Marine Le Pen, quelque part c'est vouloir prendre les armes contre une partie importante et peut-être demain majoritaire, le peuple français en décidera. Et c'est évidemment totalement scandaleux et anti-républicain.
Sauf que Michel, c'est pas sérieux. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas, ils n'ont pas de milice, ils n'ont pas d'armes, ils ne défilent pas avec des uniformes dans la rue. Ni ce qu'ils prêtent à la soi-disant extrême droite, ni eux, ne ressemblent à ça. En fait, on rejoue les années 30 sur un mode... Enfin, c'est Marx qui disait, l'histoire se répète, une première fois sous forme tragique, une deuxième fois sous forme de plaisanterie. Là, c'est une plaisanterie. En fait, ceux qui font couler le sang, c'est plutôt les islamistes.
Je voudrais vous emmener à présent en Allemagne. Face à l'explosion de l'antisémitisme, le pays a décidé d'inclure des questions sur l'Holocauste dans ses tests de naturalisation.
Quand l'État d'Israël a-t-il été fondé? Pourquoi l'Allemagne a-t-elle une responsabilité particulière vis-à-vis d'Israël? Ces savoirs devront être acquis par les personnes qui veulent obtenir la nationalité allemande. Les précisions d'Aminata Demphal.
En Allemagne, les conditions de naturalisation vont bientôt connaître un changement. Des questions concernant l'Holocauste et le judaïsme seront posées à tout demandeur de la nationalité allemande. Une réponse pour la ministre de l'Intérieur Nancy Faeser à la montée de l'antisémitisme dans le pays.
L'antisémitisme, le racisme et toute forme de mépris de l'humanité excluent la possibilité d'être naturalisé. L'Allemagne a une responsabilité particulière envers les Juifs et l'État d'Israël après l'Holocauste, crime contre l'humanité qu'elle a commis.
Dans cet entretien accordé à un magazine allemand, elle évoque des questions susceptibles d'être posées lors du test pour la naturalisation. Comment s'appelle le lieu de culte des Juifs? Quand l'État d'Israël a-t-il été fondé? Ou encore, pourquoi l'Allemagne a-t-elle une responsabilité particulière vis-à-vis d'Israël? L'Association fédérale des centres de recherche et d'information sur l'antisémitisme a comptabilisé plus de 200 incidents entre le 7 et le 15 octobre 2023, une hausse de 242%. Par rapport à la même semaine en 2022.
Est-ce que face à l'explosion de l'antisémitisme aussi en France, on devrait demander la même chose lors des tests de naturalisation?
Oui, bien entendu, je trouve que c'est une très bonne initiative des Allemands qui, il faut le reconnaître, moi je suis alsacien, donc en Alsace on y est particulièrement sensible. Les Allemands ont fait un très gros travail de mémoire sur leur propre histoire et le fait de pouvoir poser ce genre de questions, je trouve que c'est une très belle démarche de la part des Allemands. Mais oui, évidemment, parce que les faits d'antisémitisme proviennent aussi malheureusement beaucoup de personnes étrangères qui veulent devenir soit allemands, soit français. Donc c'est très bien de poser ces questions. Et je serais curieux de savoir quelles seraient les réponses ou les absences de réponses de beaucoup d'entre eux.
Très vite, Guillaume Bigot.
Oh, la responsabilité n'est pas du tout la même en France et en Allemagne. Parce qu'en Allemagne, il y a vraiment une participation active du peuple allemand à travers des référendums, à travers des élections à la promotion de l'antisémitisme. En France, c'est une classe dirigeante qui a trahi. et qui s'est couché. Et en ce qui concerne la France aussi, et même l'Allemagne, l'antisémitisme n'a plus rien... Enfin, c'est un autre antisémitisme, d'une autre nature. Donc ils peuvent à la rigueur et condamner celui du passé, et en même temps rester dans leur position malheureusement très antisémite contemporaine.
7h45, le rappel de l'actualité, Marine Sabourin.
L'Indre-et-Loire et la Vienne en vigilance rouge pour risque de crue. Dans ces départements, des dizaines de personnes ont été évacuées de leur logement dès hier. À Bouchard, en bord de Vienne, un EHPAD a été évacué dans la soirée. Les gendarmes et sapeurs-pompiers sont mobilisés. La circulation sera difficile aujourd'hui et des coupures d'électricité sont à prévoir. Un adolescent de 17 ans mis en examen à Paris hier. Il a été placé en détention provisoire dans le cadre d'investigations sur l'envoi de menaces à des établissements scolaires via leur espace numérique de travail. Scolarisé, il n'a pas d'antécédents judiciaires de même nature. Il avait été interpellé jeudi à Malakoff dans les Hauts-de-Seine. Et puis ces nouvelles menaces de mort à l'encontre d'une professeure. Cela s'est passé le 7 mars dernier au lycée Michel-Ange de Villeneuve-la-Garenne dans les Hauts-de-Seine. Au nom d'Allah, je vais la buter. C'est ce qu'a déclaré l'élève après un désaccord avec son enseignante. L'élève a été exclu définitivement de l'établissement. L'enseignante a déposé plainte.
Bon, semaine après semaine, c'est en train de devenir mon rendez-vous préféré du dimanche, 7h45, la chronique royale, Bertrand Dekkers avec nous, avec, je le ressouligne, sa veste lumineuse aujourd'hui, et on en a bien besoin, et on va parler en ce dimanche de Pâques, Bertrand, de quelque chose peut-être pas très original. Vous allez nous parler de...
Absolument, mais des œufs un peu différents, vous allez voir. On a parlé beaucoup d'œufs en chocolat, ça n'a échappé à personne. Alors les œufs, il y en a pour tous les goûts, n'est-ce pas? Il y a des œufs battus, il y a des œufs mollets, il y a des œufs à la coque. Moi, si je peux me permettre ce jeu, moi je vais parler des œufs à la russe. Je vais vous parler des œufs Fabergé, qui sont les œufs les plus fabuleux, les plus chics, les plus chers.
On ne les casse pas, ceux-là.
On ne les casse pas, ceux-là, en effet. Qui dit absolument Fabergé dit Romanov, vous savez, les tsars de Russie. Anthony, la très scintillante histoire que je vous raconte aujourd'hui va débuter en 1885 à l'occasion des fêtes de Pâques. C'est le rendez-vous le plus important du calendrier orthodoxe. Et le tsar, à l'époque Alexandre III, offre à son épouse Maria Féodorovna, à l'occasion de ces fêtes, un petit écrin. Alors, c'est pas traditionnel. Normalement, on offre un diadème, un collier, un bracelet, pas du tout. Qu'est-ce que cet écrin renferme ? Il renferme un œuf. Alors, pas un œuf cuit mollet ou un œuf à la coque, n'est-ce pas ? Un œuf signé de Pierre-Carl Fabergé, qui est absolument sublime, qui est recouvert de pierres précieuses. Et cet œuf, en système de poupée russe, il va s'ouvrir, il va cacher un jaune d'œuf, qui va lui-même s'ouvrir, qui va cacher une poule, qui va elle-même s'ouvrir et qui va cacher une couronne impériale, la réplique en miniature, en tout cas parfaite, de la couronne impériale. D'emblée, on dit que l'impératrice est absolument séduite par ce jeu très drôle et ça devient vraiment une véritable collection qui va naître.
Alors dites-nous tous, une collection unique au monde, je crois bien.
Absolument, chaque année, la tsarine va recevoir un nouvel œuf à l'occasion de ses fêtes de Pâques. Il y en aura au total 54. 54 œufs impériaux vont être créés par Pierre le Carl Fabergé, qui, on le rappelle, est un orfèvre russe, mais est originaire lointainement par son père de la France. C'était une famille protestante issue de La Bouteille, qui est un petit village situé en Picardie. Il dispose de la part des Romanov d'une liberté de création absolument totale. Il a un seul mot d'ordre, je vous l'ai dit, ça amuse la famille impériale, c'est d'avoir une surprise. Une surprise à la fois que renferme cet œuf qui doit correspondre un peu à l'histoire de la famille impériale. Alors, ils ne le savent pas encore en ce printemps 1885, les Romanov, mais comme vous le dites, ils viennent de donner naissance à la plus fabuleuse collection d'objets d'art du monde. 54, je vous l'ai dit, impériaux vont être créés. Deux ne seront jamais livrés aux Romanov, ceux de Pâques 1917, puisqu'ils tomberont bientôt sous les balles des bolcheviks.
Ah oui, ils ont tristement disparu, vous l'avez dit, avec toute cette légende autour de la princesse Anastasia. Mais qu'en est-il de leurs œufs ?
Les œufs, eux, n'ont pas disparu, si l'on peut dire. Ils ont été placés tout d'abord dans le palais des armures, sous très très haute sécurité. Et puis, au fil des temps, certains vont être vendus dans des ventes aux enchères exceptionnelles, d'autres vont être volés. On estime aujourd'hui que sur ces 54 merveilles impériales, 7 ont totalement disparu. La plupart sont exposés dans des musées. 17 autres, eux, ne sont pas impériaux. Ils ont été créés, eux, pour des familles prestigieuses, dont les Rothschild, entre autres. ici en France, le musée Fabergé de Saint-Pétersbourg est le musée qui en possède le plus. Il possède 14 œufs au total, dont 9 œufs à Périot. Et sachez que le plus grand détenteur privé de ces œufs est quelqu'un dont je parle régulièrement sur ce plateau. Il s'agit de Charles III. En personne, les Windsor sont propriétaires de 3 œufs Fabergé.
Alors, est-ce que justement, c'est un patrimoine important que ces œufs Fabergé, ça coûte combien ?
Un œuf Fabergé, alors évidemment, c'est difficile de le qualifier, puisque vous vous doutez bien, il y en a très très peu à la vente. Le dernier œuf à la vente vraiment, c'était en 2007. C'était à Londres, c'est Christie's qui l'a vendu, c'est le fameux œuf Rothschild Fabergé, qui a appartenu pendant plus d'un siècle à la famille Rothschild. Il a été vendu pour 12,5 millions d'euros.
Mais ça oui, on ne va pas les cacher dans le jardin, clairement, on ne sait pas à la portée. Oui, non, bah, effectivement, c'est pas cet après-midi, j'en offrirai pas. Non.
Mais ça remonte à 2007, et alors plus récemment, en 2014, il y a eu une vente d'un œuf, figurez-vous, qui a été retrouvé sur un marché, un simple marché aux puces, en quelque sorte, dans le Midwest américain. On ne connaît pas exactement le prix de la transaction, mais en tout cas, il avait été évalué 24 millions d'euros. Et on souligne, dernière petite parenthèse, qu'il y en a deux qui se situent sur le territoire français. C'est le fameux œuf de la résurrection et l'œuf Snowflake, qui a été réalisé pour Emmanuel Nobel, qu'on peut traduire par flocon de neige, puisqu'il est tout blanc.
Merci beaucoup Bertrand Descartes, on a vu en même temps ces images magnifiques des œufs Fabergé. La chronique royale, c'est à retrouver tous les dimanches avec Bertrand Descartes, 7h45 sur CNews. Voici les sports pour finir.
Que vous soyez le roi du design ou la reine des animaux, retrouvez votre programme avec Château d'Axe. Chez Château d'Axe, c'est vous les rois.
Ce programme vous est proposé par la maison horlogère Colin MacArthur et sa montre hommage Johnny Hallyday.
Très sphérique encore ce matin, on va parler de la 27e journée de Ligue 1.
Oui, Monaco s'est imposé sur la pelouse de Metz sur le score de 5-2. Monaco s'est donc provisoirement hissé à la deuxième place du classement aux dépens de Brest qui joue ce soir à Lorient. Les joueurs de la Principauté menaient déjà 3-0 après seulement 16 minutes de jeu face à des Lorrains à bout. Avec 49 points, Monaco accuse 10 points de retard sur le PSG en déplacement à Marseille ce soir pour la grande affiche de la journée.
Ce programme vous a été proposé par la maison horlogère Colin MacArthur et sa montre hommage Johnny Hallyday.
Que vous soyez la reine de la déco ou le roi du zen, c'était votre programme avec Château d'Axe. Chez Château d'Axe, c'est vous les rois.
Vous restez avec nous dans quelques instants, on va parler de la menace terroriste au plus haut avec un attentat déjoué contre Notre-Dame de Paris, une tentative qui porte la marque de l'État islamique. Ce sont les infos dévoilées ce matin par nos confrères du JDD. Le temps pour moi de remercier mes invités, Michel Taube sur ce plateau, merci à vous, et Bertrand Descartes qu'on retrouve encore une fois le week-end prochain et puis au gré de l'actu aussi sur CNews assez régulièrement. A tout de suite sur CNews.
La météo avec Groupe Verlaine. Installateur de panneaux photovoltaïques, garantie à vie avec contrat de maintenance. Groupe Verlaine, le climat de confiance.
Retrouvez la météo avec Body Minute. Un réseau de 500 franchisés femmes au service de votre bien-être.
La météo de votre dimanche avec Karine Durand. Une météo marquée par cette alerte rouge aux crues. Elle a déjà démarré, Karine.
Oui, avec un pic de crue qui a normalement été atteint ces dernières heures dans la nuit. En tout cas, l'alerte rouge est toujours maintenue pour ces deux départements, pour la Vienne ou encore l'Indre-et-Loire. Mais attention également du côté de la Charente-Maritime, la Gironde, la Dordogne, placée en alerte orange pour le risque de crue également. Et puis, alerte orange aussi pour les Alpes-Maritimes en raison du risque d'avalanche très élevé et des fortes chutes de neige tombées ces dernières heures. La situation est vraiment très perturbée sur l'ensemble du pays. De toute manière. Alors ce matin, on se méfie particulièrement de ce qui se passe du côté du sud-est, des Cévennes ou encore de la Provence-Alpes-Côte d'Azur avec ce fort vent qui ramène une mer très agitée. On a des risques de submersion. Sur les Cévennes, on peut avoir jusqu'à 200 mm de pluie localement d'ici la fin de soirée. La neige reste abondante sur les Alpes du sud. Quant à l'ouest, on a quelques averses parfois fortes qui se déclenchent sur l'arc atlantique et au cours de l'après-midi, tout va s'agiter sur l'ensemble du pays. Il n'y a que très peu de zones qui ne seront pas concernées journée, l'après-midi, par ce risque orageux qui va se généraliser avec des orages cette fois-ci en direction de la Côte d'Azur, en direction du Piémont pyrénéen, mais aussi sur toute la moitié nord avec de bonnes averses orageuses et de la grêle possible également. Les températures sont à peu près de saison ce matin comme cet après-midi. 5 degrés à Nancy par exemple, 7 degrés à Bourges, 11 degrés du côté de Cannes. Et pour l'après-midi, les valeurs sont classiques mais le ressenti est très mauvais avec le vent, avec l'humidité. On a quand même 18 degrés à Strasbourg, 12 degrés pour le Puy-en-Velay et 14 degrés à Biarritz.
C'était la météo avec Body Minute, un réseau de 500 franchisés femmes au service de votre bien-être. Chaud l'été, froid l'hiver, c'était la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupeverlaine.com.
Bonjour à tous, joyeuse Pâques pour les plus spirituels, joyeuse chasse aux œufs pour les plus gourmands. Et puis de toute façon, excellente journée à tous ceux qui nous suivent aujourd'hui sur CNews. Bienvenue dans la matinale week-end. On est encore ensemble pour une heure de décryptage, d'analyse, de débat sur ce plateau. Et j'ai le plaisir d'accueillir à ma gauche, il a beau être désorienté parce que c'est pas sa place habituelle, il préfère être du côté droit. Mais il est là, c'est Vincent Roy, journaliste, écrivain, éditorialiste pour CNews. Bonjour Vincent.
Et joyeuse Pâques à tous.
Joyeuse Pâques à tous.
Vous voyez que parfois, on se lève et il y a une bonne nouvelle à fêter.
Oui, parce que c'est pas la météo qui est charmante aujourd'hui, non, malheureusement. Au moins quelque chose à fêter aujourd'hui. Guillaume Bigot, bonjour à vous.
Bonjour, et joyeuse Pâques aussi à tous.
Joyeuse Pâques à nos téléspectateurs qui célèbrent cette fête. Et puis bonne journée à tous plus globalement. L'excellente Marine Sabourin. Voilà, qui me supporte chaque week-end, week-end après
elle
week-end.
Elle en a du mérite. Hein.
Elle en a du mérite. Et voici le journal soigneusement préparé par Marine Sabourin. Les titres tout de suite de votre journal de 8h. La menace terroriste au plus haut avec un attentat déjoué contre Notre-Dame de Paris. Une tentative qui porte la marque de l'État islamique dont la propagande ne faiblit pas. Un Égyptien de 62 ans a été interpellé. Ce sont les infos dévoilées ce matin par nos confrères du JDD. Gérald Darmanin qui fait le bilan des opérations PlaceNet XXL menées depuis une semaine. Plus de 1700 interpellations, 150 kilos de drogue saisies. Le Premier ministre prévient, ce n'est pas fini. Dès demain, les affaires reprennent. Les syndicats de magistrats, eux, dénoncent des opérations PichNet insuffisantes. Qu'en pensent mes éditorialistes sur ce plateau ? On leur posera la question. Ils sont de plus en plus nombreux à pousser les portes des églises pour devenir catholiques cette année. En ce week-end de Pâques, plus de 12 000 personnes se font baptiser. 31% d'adultes en plus, 50% d'ados. Nous avons suivi hier soir deux nouveaux catholiques pour leur baptême, Jacques et Mathieu. Ils nous expliquent leur parcours vers la foi. On commence tout d'abord avec cet attentat déjoué à Notre-Dame de Paris. C'est une information publiée par le JDD ce matin. Un Égyptien de 62 ans a été interpellé le 5 mars dernier à Paris.
Il a été mis en examen pour association de malfaiteurs terroristes criminels 3 jours plus tard, le 8 mars. C'est le deuxième projet d'attentat déjoué depuis le début de l'année 2024. Tout ce qu'il faut savoir avec Mathilde Ibanez et Axel Rebaud.
Un drame évité de justesse. La cathédrale Notre-Dame de Paris était la cible d'un projet d'attentat. Le suspect est un homme âgé de 62 ans, de nationalité égyptienne. Il a été interpellé par les policiers de la Direction générale de la sécurité intérieure le 5 mars dernier et a été mis en examen pour association de malfaiteurs terroristes criminels. Des menaces contre les lieux de culte qui inquiètent les Français en ce week-end de Pâques.
Forcément, c'est comme un monument avec un sacré héritage, une histoire, mais comme pour beaucoup de monuments à Paris.
Pour moi, Notre-Dame, c'est un peu ça, c'est un symbole auquel se raccrocher en tant que Français ou en tant que Française.
Car depuis l'attentat à Moscou, les menaces contre la France sont de plus en plus importantes.
Alors, le ministère de l'Intérieur a répondu au JDD et il nous a affirmé qu'il prenait les choses très au sérieux, qu'il assurait la sécurité des Français. Voilà, en nous rappelant que les effectifs de la DGSI ont été doublés puisqu'on est aujourd'hui à près de 5000 agents. Le budget aussi a augmenté de 50%.
En plus du soixantenaire, 4 autres personnes ont également été interpellées, dont un jeune homme de 14 ans. D'après l'enquête réalisée par le JDD, les 5 individus n'auraient aucun lien direct entre eux, mais feraient tous partie de la même branche de l'État islamique, le Khorasan.
L'État islamique au Khorasan, effectivement, c'est la branche la plus active et la plus aujourd'hui influente de l'État islamique. Et ils jouissent pour ça de deux qualités. La première qualité, c'est un pouvoir de propagande très fort. Leur autre force, c'est de savoir exploiter des failles logistiques du monde occidental, notamment en détournant les routes migratoires.
Pour protéger les Français en ce week-end de Pâques, c'est près de 10 000 policiers et gendarmes qui sont fortement mobilisés devant les zones jugées à risque.
Deux éléments intéressants qu'on vient d'entendre qui nous sont donnés par ce journaliste du JDD. Cet attentat est la marque du groupe État islamique au Khorassan. On l'a cruellement vu à Moscou la semaine dernière, oui, avec l'attentat de Moscou. Un groupe qui est réputé ultra-violent. Ce qui nous interpelle, c'est sa capacité, malgré la fin du califat qu'on a pu connaître entre la Syrie et l'Irak, c'est sa capacité à exploiter les failles en matière d'immigration.
Et oui.
Et puis sa puissance de propagande, puisqu'on voit que même un jeune de 14 ans a été interpellé dans cette affaire.
Et on en revient toujours au même problème, c'est-à-dire cette immigration incontrôlée qui fournit, si vous voulez, des candidats pour des attentats. Alors, la question qu'on peut se poser aussi, qui est toujours une question que je me pose lorsque j'entends comme ça un projet d'attentat à Notre-Dame déjoué, c'est qui communique et pourquoi ? Parce que ce sont les services de sécurité intérieure qui ont donné cette information, sans doute. Mais on communique pourquoi ? Pour nous dire, regardez, on déjoue des attentats, etc. Nous ne sommes pas assez naïf pour ne pas imaginer qu'effectivement l'État français déjoue des attentats. Ça me paraît être l'évidence. Et des attentats aussi symboliques, par exemple contre Notre-Dame, il y a eu plusieurs, évidemment, Notre-Dame, et il y a la Tour Eiffel. Bon là, le symbole est effectivement religieux, mais on n'est pas franchement étonné. Là où on est étonné, en revanche, c'est effectivement que cet Égyptien, dont on ne sait pas grand-chose, que faisait-il sur le territoire ? Voilà, a-t-il un titre de séjour ? On sait qu'il n'a pas, a priori, la nationalité française. Donc voilà, en fait, le problème migratoire est posé là, dans ses attendus les plus dangereux.
Et je voudrais qu'on creuse ce que vous avez dit sur la communication de l'État, sur les attentats déjoués. C'est important aussi de rappeler que... Parce que quand les attentats ne se produisent pas, on n'a pas conscience que la menace terroriste est présente. Là, on sait que depuis le début de l'année, 2024, deux attentats ont été déjoués, dont celui-ci,
oui,
et 45 depuis 2017.
Gérald Darmanin nous dit actuellement, puisqu'ils ont renforcé la sécurité du pays, nous dit actuellement, à peu près toutes les semaines, des attentats sont déjoués, etc. On le sait. La menace est très forte. On est au courant. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir à chaque fois, je me pose la question, je me dis, parce que c'est très anxiogène, c'est à cela que je pense. Je me dis, en quoi a-t-on besoin de nous le dire ? La phrase... De nombreux attentats ou beaucoup d'attentats sont déjoués par nos services de sécurité intérieure, personnellement, me suffit. J'ai pas forcément besoin de détails.
Je pense que l'alerte et la symbolique, en tout cas, a son importance.
Ah non, mais on peut avoir un avis.
Savoir concrètement quel est l'état de la menace et savoir aussi que la DGSI fait un travail remarquable là-dessus.
Totalement. D'autant que je trouve que c'est assez contre-productif pour l'État parce que ça montre précisément que le problème migratoire n'est absolument pas, on le savait, mais n'est question. Absolument pas réglé. Donc voilà, je me pose toujours cette question.
Guillaume Bigot.
Oui, on peut se demander si ce n'est pas contre-productif, effectivement, parce que ce que veulent les terroristes, c'est déclencher un climat de terreur. Donc si vous communiquez au sujet d'attentats qui n'ont pas été réalisés, à rigueur, ils n'ont même plus besoin de faire des attentats, vous allez devenir leur porte-parole d'une certaine façon. Deuxième chose, je comprends bien l'idée, c'est à la fois de se couvrir, parce qu'on est tout un attentat, forcément, le message subliminal, si on lit entre les lignes, c'est qu'on ne pourra pas tout arrêter. On était très efficace jusqu'à présent, et c'est vrai que nos services sont très efficaces, mais on ne peut pas tout arrêter. Bon, moi je pense que c'est, avec surtout, une fois que les attentats sont là, la sempiternelle question, moi je suis ces sujets depuis très longtemps, mais alors que fait la police ? Pourquoi on ne l'a pas arrêté ? C'est-à-dire que ça envoie l'idée fausse qu'on pourra tout arrêter, en plus. C'est ça, vous voyez, c'est... Et donc après, on se dira, mais alors, est-ce qu'il y a eu une faille dans les services, etc. Je crois qu'il faut à la fois, paradoxalement, préparer l'opinion à quelque chose de très long terme, 30 ans, peut-être même 100 ans, ça va durer très longtemps, et en même temps, vraiment, dire aux gens, essayez de ne pas avoir peur, ça ne doit pas nous empêcher de vivre nos vies de citoyens, et la République et le pays ne va pas s'arrêter de tourner pour autant. Voilà, ils ne triompheront pas quoi qu'il arrive. Bon. Maintenant, ça c'est sur la communication. Ensuite, bon, on voit que ces djihadistes, une fois qu'ils ont ciblé quelque chose, le World Trade Center, là en l'occurrence c'est Notre-Dame, c'était déjà le cas en 2016, ils y reviennent. On comprend pourquoi c'est une cible. C'est une cible parce que nous sommes en plein week-end de Pâques, parce que Notre-Dame c'est un symbole mondial et parce qu'en plus la cathédrale va être rendue bientôt au public. Ensuite, dernier commentaire, c'est pas du tout anecdotique ce Khorassan, c'est presque un retour au point de départ. Le djihadisme contemporain est né en Afghanistan. l'Afghanistan, à la faveur de l'occupation soviétique, extrêmement laïque, extrêmement violente avec l'islam. Là, les services de renseignement américains, d'abord, ont armé, formé d'ailleurs à la contre-guérilla ces djihadistes. Ça avait donné ensuite Al-Qaïda. Et finalement, il y a une sorte comme ça de faille sismique qui va de la Turquie quasiment jusqu'au Xinjiang, enfin au nord de la Chine. Toutes ces populations d'Asie centrale, que ce soit vraiment l'Asie centrale à proprement parler, avec les Tchétchènes, les Ingouches, etc., tous ces peuples-là, jusque, au nord de la Chine, mais ça passe par l'Afghanistan, ces gens-là, soit parlent turc, soit parlent perse. Là, en l'occurrence, le Khorasan sont plutôt des ethnies qui parlent la langue persane. Khorasan, ça veut dire Afghanistan en langue perse. Et ce sont des gens qui ont joué un rôle décisif dans tous les djihad, même en Syrie. La garde personnelle du Mollah Omar, c'était des gens du Caucase, par exemple.
Autre information, je voudrais qu'on mette en relief. La France a expulsé hier matin Rachid Aït El Hadj, un homme âgé de 48 ans qui avait été condamné en 2007 pour des faits de terrorisme. Il avait ensuite été déchu de sa nationalité française en 2015.
Oui, selon le Figaro, l'homme était encore en contact avec la mouvance djihadiste. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a déclaré hier dans un tweet « Merci aux préfets, policiers, gendarmes et agents des services de renseignement. Se donnent du mal, mais les efforts payent pour protéger la France. »
Alors là, je suis effaré par la temporalité de l'affaire. Il a été condamné pour terrorisme en 2007. Il a été ensuite en prison. À sa sortie de prison, on l'a déchu de sa nationalité en 2015. Et nous sommes en 2024 et on nous dit enfin il est expulsé du territoire français. Oui. Entre-temps, il entretenait des liens avec celui qui a voulu commettre un attentat à Villejuif, Sid Ahmed Glam, en 2015, avec celui qui a tué les deux policiers, le couple de policiers de Magnanville en 2016.
Ah, et ce n'est qu'en 2000. Il a un pedigree très sympathique.
Oui. Et ce n'est qu'en 2024 qu'on nous annonce fièrement l'expulsion de cet homme.
Oui. Alors là, on se demande de manière très claire, est-ce qu'on est juridiquement armé pour traiter ce genre de cas ? Parce que il est très facile, à sa sortie de prison, et compte tenu, encore une fois, du pédigré de l'individu, de l'expulser hic et nunc. Or là, on attend, vous m'avez dit 2017, 2015.
2015 entre 2015, où il a été déchu de sa nationalité, 2024, 9 ans.
2024, 9 ans. 9 ans pour expulser un individu extrêmement dangereux. Alors là, il y a des trous dans le tamis, il se passe quelque chose. Enfin, comment expliquer 9 ans durant lesquels on ne fait rien contre un individu extrêmement dangereux. Alors là, on ne peut plus parler de laxisme. Le mot ne convient absolument plus. On est obligé de dire il y a un problème avec, là, pour le coup...
C'est le droit. C'est une question de droit, en fait.
Ah ben, question de droit. Il faut arrêter avec l'état de droit. Tout ça est extrêmement agaçant. Le droit est fait pour changer. L'état de droit est fait pour s'adapter. La société change. L'état de droit doit s'adapter. Qu'on arrête de se retrancher derrière l'état de droit, ça, c'est un leurre.
Non mais on sait bien que l'état de droit, effectivement, c'est le quasiment le droit qui paralyse l'État. Enfin, c'est les droits de l'homme, c'est une idée plus que respectable. C'est au fondement de nos démocraties. Mais comme toute idée poussée jusqu'à son extrémité, ça devient une espèce d'extrémisme des droits de l'homme et ça devient très très contre-productif, y compris sur le plan des droits de l'homme, puisque on laisse des gens très dangereux sur le territoire. Là, on va être très prudent. Je ne sais pas. Peut-être qu'il y a une couche, effectivement, de épuisement des recours, toute la problématique de l'état de droit avec la complexification des recours, l'intervention de la Cour européenne des droits de l'homme, de la Cour de justice européenne, etc. Peut-être. Peut-être que c'est ça. Peut-être que simplement, il fallait attendre l'épuisement de tous les recours. Peut-être aussi, parce que ça existe, que les services de renseignement avaient besoin de laisser ce poisson se balader dans l'aquarium, voir avec qui il parlait, dans quelle mangeoire il allait, etc. Parfois, de temps en temps, ça peut paraître surprenant pour les profanes, mais on a besoin
ça
de
ça peut permettre d'établir des liens avec...
Bien sûr, de cartographier les choses, etc. Et de neutraliser d'autres menaces, c'est possible aussi. Et la troisième solution, c'est que peut-être qu'il était juste sorti des radars et du politique, notamment du politique, et que là, comme on est dans une séquence, comme on dit, puisque maintenant la communication est a complètement englouti la politique avec un grand P, la séquence, c'est une séquence où il y a attentat, donc tiens, on se souvient qu'à ce gars-là, peut-être qu'on appuie sur le bouton, qu'on l'expulse, on ne sait pas.
Effectivement, on n'a pas toutes les informations,
c'est bien
de nuancer, mais c'est important de le souligner en tout cas. Marseille, Lyon, Dijon ou encore Clermont-Ferrand, Gérald Darmanin a fait un premier bilan de ces opérations PlaceNet XXL lancées il y a une semaine avec ce chiffre, 1738 interpellations.
Un chiffre dont le ministre de l'Intérieur s'est félicité lors de son déplacement à Saint-Denis hier en région parisienne. Il assure que beaucoup de déferments et de mandats de dépôt ont eu lieu, mais pour l'heure, aucun communiqué n'a été publié. publiées concernant les suites judiciaires pour ces individus. On voit cela en détail avec Corentin Alonso et Sacha Robin.
À Saint-Denis, hier, Gérald Darmanin a dressé un nouveau bilan de l'opération PlaceNet XXL.
Les opérations antidrogue continuent à produire énormément d'effets. Nous sommes à 1738 interpellations au moment où je vous parle, dont 150 kilos de drogue qui ont été saisis avec notamment de l'héroïne et de la cocaïne, 2,4 millions d'euros d'argent. Et nous avons eu plus de 20 000 policiers et gendarmes mobilisés.
Annoncée d'abord à Marseille, l'opération PlaceNet s'est élargie cette semaine aux agglomérations de Paris, Lille, Dijon, Lyon et Clermont-Ferrand. Et le ministre a annoncé que ces opérations allaient se poursuivre.
Lundi prochain, trois nouvelles opérations antidrogue XXL auront lieu dans d'autres agglomérations françaises. Évidemment, je ne doute pas ces lieux pour permettre à la police et à la justice de faire son travail d'interpellation d'objectifs judiciaires, ce qui portera à neuf les endroits en France où nous mettons des moyens considérables.
Dans un communiqué, le syndicat de la magistrature dénonce une opération pichenette et exhorte le gouvernement à sortir de cette escalade inutilement coûteuse. De son côté, l'Association française des magistrats instructeurs juge ces opérations insuffisantes pour endiguer le trafic de drogue.
Guillaume Bigot.
Je vous ai dit tout à l'heure que la communication est complètement engloutie complètement la politique. Là, c'est le cas. Enfin, opération PlaceNet, XXL. Enfin, on vend pas des hamburgers et opération PlaceNet, on a l'impression que c'est de la pub pour des produits ménagers. Enfin, c'est quand même grave la question des stupéfiants. Et de la lutte contre les stupéfiants, bon, on ne peut pas résumer ça à deux slogans.
Opération pichenette, opération insuffisante, disent les syndicats de magistrats.
Ah oui, d'accord, mais alors dans ce cas-là, que propose-t-il ? Parce que c'est bien beau de dénoncer quelque chose. D'abord, il faut saluer quand même le travail de la police. Deux, je suis absolument d'accord avec Guillaume Bigot, opération PlaceNet XXL, ça sent la com de manière évidente. Trois, il va falloir voir, parce que 1700 interpellations, d'accord, des gardes à vue, des mandats de dépôt, d'accord, mais ensuite, il faudra faire un bilan pour savoir si la justice suit précisément, parce que ça n'est que le premier étage de la fusée, si j'ose dire. Et puis, troisièmement, je reviens sur les magistrats, c'est bien beau de dire « ça ne sert à rien », etc. Mais messieurs, que proposez-vous ? Parce qu'on a vu souvent un problème entre la police et la justice. On a vu que ces arrestations n'étaient pas toujours suivies des faits. Donc là, ça rassure la population, c'est le seul mérite. Autrement,
parce qu'à
Marignane, ce n'était pas le cas et que les gens disaient « de toute façon, ça ne change pas notre vie ». Évidemment, ce sont des opérations rustines. Il faut néanmoins quand même les faire, saluer le travail de la police et ne pas tout dénoncer tout le temps, parce que sans quoi il ne se passe rien. Et je crois que dans ce domaine, il faut vraiment qu'il se passe des choses.
Face à la perte de sens dans notre société, l'insécurité croissante, qu'elle soit physique, matérielle ou encore culturelle, de plus en plus de Français se tournent vers la foi, la spiritualité. En ce week-end de Pâques, 12 000 personnes se font baptiser, 31% d'adultes en plus, 50% d'ados.
Hier soir, à l'occasion de la messe pascale, nous avons suivi deux d'entre eux, Jacques et Mathieu. Ils ont sauté le pas et se font baptiser dans la paroisse du Saint-Esprit, dans le 12e arrondissement de la capitale. Le reportage d'Antoine Durand avec le récit de Juliette Sadat.
Le moment est solennel pour Jacques, retraité, franco-libanais, né musulman. En ce week-end de Pâques, il se fait baptiser et entre dans la vie chrétienne.
J'attends ça depuis 3 ans. Je suis né musulman. Sunnite. Mais le problème, c'est que bon, l'islam, c'est quelque chose de noble. Mais j'ai vu à l'église qu'il y avait amour, respect, pardon et tolérance. C'est pour ça que je choisis ça.
Comme Jacques, ce sont plus de 7000 adultes et adolescents qui sont baptisés ce week-end. Un chiffre en hausse par rapport à l'année dernière.
On a une part croissante de ceux qu'on appelle un peu les non-religieux, les sans-religion, c'est-à-dire des personnes qui n'ont absolument rien en héritage, mais qui vont découvrir les choses petit à petit, au contact du monde, particulièrement par Internet.
Comme de nombreuses personnes de sa génération, Mathieu n'a pas été baptisé. C'est sur Internet qu'il s'est rapproché de la religion catholique. Cette journée, il l'a attendue depuis longtemps.
Je suis enthousiaste à cette perspective et impatient, mais réservé par rapport à cet événement.
Une tendance à la hausse ces dernières années, mais l'Église catholique continue de déplorer une perte de vitesse en France. En 20 ans, le nombre de baptêmes a diminué de moitié.
Allez, on va parler économie à présent face à la dette abyssale du pays. Quelle piste pour le gouvernement? En tout cas, on a interrogé les Français à travers un sondage CSA pour CNews Europe 1 et le JDD. 54% des Français se disent favorables à la réduction des indemnités chômage, Marine.
Oui, les sondés favorables à cette idée avaient la possibilité de préciser leurs pensées. Et voici leur réponse. 25% d'entre eux favoriseraient une réduction de la durée d'indemnisation. 5% une baisse de son montant. 24% en faveur des deux.
Ce sondage qui intervient car les règles d'indemnisation pourraient à nouveau changer pour les demandeurs d'emploi. Elles pourraient passer de 18 à 12 mois avec la réforme de l'assurance chômage souhaitée par le gouvernement.
Oui, voici ce qu'en pense le patron du MEDEF, Patrick Martin, dans le JDD ce matin. Relancer une nouvelle réforme est envisageable, certes, mais elle ne doit pas faire perdre de vue que la réponse la plus puissante au chômage, c'est l'activité. Tout ce qui soutient l'activité est bon pour l'emploi.
Ça aussi, ça va peut-être permettre de faire des économies au gouvernement, en tout cas même certainement. Vous allez pouvoir le constater en pharmacie dès aujourd'hui, le doublement de la franchise médicale sur les boîtes de médicaments.
Oui, le montant qui reste à charge du patient passe de 50 centimes à 1 euro sur chaque boîte. Selon les estimations du gouvernement, la mesure devrait permettre 800 millions d'euros d'économies aux caisses de la sécurité sociale. Reportage de Régine Delfour et Laura Lestrat.
Pour ces 7 boîtes de médicaments, vous allez désormais débourser 7 euros au lieu de 3,50 euros. Le doublement de la franchise médicale entre en vigueur aujourd'hui. Elle passe à 1 euro la boîte de médicaments contre 50 centimes auparavant. Si certains sont pour...
Si on sait qu'on doit payer 1 euro à chaque fois, ben évidemment qu'on va faire attention.
Je pense que c'est très bien. Enfin, je pense que ça responsabilise tout le monde.
D'autres ne décolèrent pas.
C'est une honte. C'est les mêmes qui payent, en plus.
On se fait taxer de tous bords.
Un euro par boîte, c'est quand même beaucoup.
La participation forfaitaire sur les consultations, actes médicaux, examens et analyses de biologie médicale double également. Concrètement, quel est l'impact sur les professionnels de santé?
Ça n'impacte en aucun cas le chiffre d'affaires des labos, du radiologue, des pharmacies. C'est vraiment le consommateur, le client, le patient qui sera impacté sur ça, donc qui sera prélevé des 1 euro de cette franchise.
Mais selon les traitements médicaux, certains ne paieront pas 1 euro par boîte de médicaments.
On a différents types de boîtes, on a des boîtes trimestrielles, ce qui permet éventuellement de ne pas avoir cette franchise de tous les mois à payer 1 euro. Il pourra payer une boîte de 3 mois, il aura une franchise d'1 euro.
Ce dispositif devrait, selon le gouvernement, permettre à l'assurance maladie d'économiser 800 millions d'euros par an.
Vincent Roy, vous avez des pistes?
Oui, j'ai des pistes.
Des pistes d'économie, je précise.
Une remarque et une piste. Il y a une chose qui est formidable, c'est-à-dire qu'on voit bien que le gouvernement, depuis 1974, il n'y a pas eu un budget à l'équilibre. Et là, depuis les dernières années et depuis le début du septennat Macron, la dette a augmenté, ce qui veut dire une gestion quand même qui n'est pas sans poser problème, alors qu'on nous avait promis un ténor de l'économie. Et là, on va taper sur... notamment, donc c'est les Français qui vont payer, et notamment sur la durée de l'indemnisation chômage. Je pense notamment au chômage des seniors. Hein, ça va formidablement, parce qu'ils sont au chômage pour le plaisir. Donc ça va formidablement les arranger qu'on réduise là. En revanche, je vois qu'on ne touche absolument pas à quelque chose qui coûte très très cher, hein, c'est la retraite du public. Ça, il faudrait peut-être y mettre un peu d'ordre, parce qu'à mon avis, il y a des sous à gagner.
On va marquer une courte pause, on revient dans un instant, on ira du côté de Amiens, la municipalité veut tester l'interdiction de la mendicité, on vous expliquera pourquoi et comment, toujours avec Guillaume Bigot sur ce plateau, Marine Sabourin et Vincent Roy pour commenter l'actualité. À tout de suite. On est très heureux de vous accueillir dans la matinale week-end avec toute l'équipe en ce week-end de Pâques, dimanche 31 mars. J'ai le plaisir d'avoir autour de la table Marine Sabourin, Vincent Roy, Guillaume Bigot et Michel Chevalet, pour qui, j'allais dire, le monde ne tourne pas rond. Mais si, justement, ils tourneront, ils tournent très très vite sur lui-même. On va en parler dans quelques minutes, j'en dis pas plus, Michel. Voici les titres de votre journal de 8h30. À la une, face à la violence de certains SDF, la municipalité d'Amiens va tester l'interdiction de la mendicité. Elle sera circonscrite au centre-ville du mois de mai au mois d'août prochain. Amiens, qui refuse d'être le déversoir de la pauvreté, rejeté des grandes villes qui accueillent les JO au détriment des petits commerces de son centre-ville. Le reportage dans un instant. Cette polémique également, une humoriste de gauche, chroniqueuse sur France Inter ou dans Quotidien, qui encourage à prendre les armes en cas de victoire du Rassemblement National en 2027. Des propos graves qui n'ont pas été tenus dans le cadre d'une chronique humoristique, mais le plus sérieusement du monde, lors d'une conférence organisée par Mediapart. Illustration de la paresse intellectuelle d'une certaine gauche et qui laisse libre cours aux pires dérives. On en parle dans ce journal. Et puis nous avons le plaisir de recevoir Michel Chevalet, je le disais ce matin, notre spécialiste des questions scientifiques. Alors je vais en dire un petit peu plus, mais pas trop non plus. On a pu lire dans la presse cette semaine que la Terre tournait étrangement de plus en plus vite sur elle-même. Et vous allez tout nous expliquer, les raisons de ce phénomène. Ce sera la fin de ce journal. Comme une toupie, comme une ballerine même.
Comme une danseuse.
Comme une danseuse, exactement. C'était une demande des commerçants du centre-ville d'Amiens, un arrêt anti-mendicité. La municipalité vient de l'annoncer à titre expérimental à partir du mois de mai jusqu'au mois d'août.
Une décision qui fait suite au comportement parfois agressif de certains sans-abri. Si la mendicité n'est plus un délit depuis 1993, certaines municipalités déposent des arrêtés pour assurer la sécurité de leurs habitants. Reportage Charles Bagé avec le récit d'Aminata Demphal.
Cet arrêté interdisant la mendicité agressive, ces commerçants l'ont longtemps attendu. À Amiens, la maire a décidé d'agir face au fléau des sans-abri violents. Cette gérante salue l'initiative, plus que nécessaire dans le centre-ville.
Il y a des commerçants à côté qui n'en peuvent plus, ils se font insulter tout le temps. Nous, c'est pareil, quand on leur demande d'aller ailleurs. Et l'alcool, la drogue, ils jouent pour beaucoup aussi.
Même constat pour cet opticien, témoin de scènes violentes avec les sans-abri.
Je trouve totalement anormal qu'effectivement quelqu'un qui vous réclame une pièce, si vous n'avez pas forcément de quoi lui donner, qu'il devienne violent, qu'il vous mette un coup de béquille ou qu'il essaye de vous faire un croche-pied en passant. Quoi.
Du mois de mai au mois d'août, les policiers municipaux pourront donc verbaliser les SDF au comportement agressif ou leur demander de partir. L'objectif de la maire, faciliter le travail des commerçants et assurer la sécurité des passants.
C'est expérimental, c'est limité dans le temps, c'est limité dans l'espace. Et puis on va faire un bilan ensuite pour voir si c'est utile, efficace ou pas.
Les rues du centre-ville amiénois concernées devraient être annoncées prochainement.
Alors, insultes, violences sur fond de drogue et d'alcool, on peut comprendre les petits commerçants de ces villes moyennes en France qui ont de plus en plus de mal à s'en sortir puisque ces centres-villes sont globalement désertés dans beaucoup de municipalités. Et puis ces commerçants qui ont connu pas mal de phénomènes, les gilets jaunes, la crise Covid, l'inflation aujourd'hui qui fait que les clients sont moins nombreux aussi et qui ne veulent pas voir les SDF empêcher aussi ceux qui peuvent encore venir s'acheter des vêtements ou autres chez eux.
Les commerçants n'ont aucune raison d'être entravés dans leurs activités et les clients non plus. On n'a pas à se faire insulter parce qu'on ne veut pas donner une pièce. Voilà, donc il faut tester des choses. Cette maire essaie de tenter quelque chose, c'est effectivement circonscrit dans le temps. Elle en fera le bilan, enfin le bilan on le connaît. S'il n'y a plus de SDF, il y aura, qui agresse les gens, ou s'il y en a moins, il y aura évidemment moins de problèmes. Les commerçants pourront travailler plus sereinement et les clients aller faire leurs achats également plus sereinement. Mais il n'y a aucune raison de laisser le tissu de la rue s'effilocher ou se dégrader. Effectivement, il faut agir. Vous savez qu'à Londres, je crois qu'il est interdit de mendier dans le cœur de Londres depuis maintenant très longtemps. Alors je ne sais plus si c'est toujours d'actualité, mais enfin c'était le cas. Il n'y avait pas de possibilité de mendier ni dans le métro ni dans les rues du cœur de Londres.
Et puis il y a une forme d'injustice aussi, c'est qu'aujourd'hui on voit les grandes agglomérations qui vont accueillir des épreuves pour les JO se débarrasser aussi de leur misère sociale pour la déverser dans des villes moyennes. Où il n'y a pas d'épreuves et qui ne seront pas les vitrines des Jeux Olympiques l'été prochain.
Il faudra montrer, par exemple, un Paris absolument, absolument superbe, défait de toutes les mendicités. Je pense que la gare du Nord, notamment, le parvis de la gare du Nord sera parfaitement impeccable et nettoyé, si j'ose dire, de manière à ce que ceux qui viennent assister au JO n'aient pas ces visions. Encore une fois, on va repeindre, on va ripolliner, quoi. Après, ça va reprendre, ou on va repousser, vous savez, les populations ailleurs. Voilà, ça a toujours été la technique. C'est du théâtre, on va monter un faux décor.
Cette polémique à présent, une humoriste encourage à prendre les armes en cas de victoire de Marine Le Pen en 2027. Mao Drama, c'est son nom. Elle participait au Mediapart Festival qui a été diffusé en ligne par le média le 16 mars dernier. Elle intervenait dans le cadre d'un débat sur le thème suivant. Comment lutter contre l'extrême droite?
On le rappelle, cette jeune femme intervient régulièrement sur le service public, notamment France Inter. Plusieurs élus demandent la suspension de ses chroniques. Cette polémique racontée par Corentin Alonso.
Le 16 mars dernier, lors du Mediapart Festival, l'humoriste de 30 ans participait à un débat sur le thème « Comment lutter contre l'extrême droite ?»
Est-ce que nous aussi on a des factions armées? On se prépare à leur répondre? Est-ce que l'on doit être radicaux jusqu'à ce point-là? Est-ce qu'on doit faire la révolution? Je ne pose que des questions, mais je trouve qu'elles se posent vraiment.
Avant de viser directement le Rassemblement National et Marine Le Pen, en imaginant une victoire du RN à l'élection présidentielle de 2027.
S'il y a l'accession au pouvoir de Marine Le Pen, on ne pourra pas juste continuer à mettre des affiches en disant « patriarcat ». Je ne sais pas me battre, je ne suis pas courageuse à ce point-là, mais si certains le sont, je ne peux que les encourager.
Une déclaration contre le Rassemblement National qui a fait réagir la députée du Var, Laure Lavalette, ce samedi sur X.
Devant ces propos d'une extrême gravité et diffusés par Mediapart, je saisis le procureur de la République sur le fondement de l'article 40 du Code de procédure pénale.
L'incitation publique à la violence est un délit passible d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
Alors je le disais, Guillaume Bigot, manifestement, enfin le titre de cette conférence était « Comment lutter contre l'extrême droite ». Manifestement, la réponse est par l'absence d'idées, par une totale paresse intellectuelle, et dire aujourd'hui, bah voilà, c'est le soulèvement, la révolution, par les armes, par la violence.
Marx a dit « L'histoire se déroule une première fois sous une forme tragique et une deuxième fois sous une forme de farce. On est dans la poursuite du, vous savez, de ce que Lionel Jospin appelait le théâtre de l'antifascisme. Donc on joue à la guerre d'Espagne, alors on dit voilà, le Rassemblement National c'est du fascisme, il y a des milices armées, c'est des gens en chemise noire qui défilent dans la rue, ils tuent tout le monde, donc nous aussi on va s'organiser et on va faire nous aussi des groupes armés pour leur répondre. Ils ont des groupes armés, est-ce que nous aussi on a des factions armées? Bon, ces gens vivent dans un monde parallèle, je ne sais pas quelle substance ils prennent, mais Madame Drama Queen, là, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle prend comme produit, mais elle est complètement dans un monde parallèle, dans un monde... tout à fait grotesque. Alors ce serait juste ridicule si ça n'était que ça. Malheureusement, il y a des gens violents. Il y a des émeutes, il y a des islamistes, etc.
Ce qui peut... On rappelle juste une incitation publique à la violence, c'est un an de prison, 45 000 euros d'amende.
Bien sûr, il faut peut-être rappeler à la réalité. Ce qui peut juste nous rassurer, et j'en termine là, c'est que, exactement comme Mélenchon qui pense être le grand ordonnateur des émeutes, mais en réalité, les racailles ou les trafiquants de stupéfiants se contrefichent de ce que raconte M. Mélenchon, et ce genre de petits bobos drama queen, là, c'est, enfin, vraiment, les djihadistes se contrefichent de ce qu'elles peuvent raconter.
Là, aujourd'hui, on a une partie de la gauche qui essaie de jouer cette question du cordon sanitaire autour du Rassemblement National, ce qui est très commode, ça évite de débattre, ça évite de confronter les idées. Et puis la deuxième étape, après le cordon sanitaire, c'est de dire eh ben, si le RN passe en 2027, on prend les armes.
Oui, censure par la violence. N'oubliez pas cette phrase de Pasolini qui est totalement prémonitoire et que je rappelle à l'envi. Le fascisme reviendra, il s'appellera antifascisme. Il faut toujours garder ça en tête. Vous avez là un bel exemple d'une dame qui appartient tout à la fois à France Inter et à Mediapart, c'est-à-dire à l'Empire du Bien. D'un autre côté, vous savez très bien qu'à l'extrême gauche, on a toujours su aussi être violent quand il le fallait. Mais il faut écouter une phrase de Julien Drey qui a déclaré sur cette antenne « Vous avez un courant de pensée qui s'est installé au cœur de la gauche, je le cite in extenso, qui pense que par la censure, il va reprendre l'hégémonie idéologique. » Voilà, la violence. La censure par la violence, voilà ce que nous propose cette dame bien pensante. Enfin, écoutez, tout ça venant d'une humoriste, ce qu'on appelle humoriste, franchement, c'est totalement pitoyable.
Face à l'explosion de l'antisémitisme, l'Allemagne veut inclure des questions sur l'Holocauste dans ses tests de naturalisation. Marine.
Oui, quand l'État d'Israël a-t-il été fondé? Pourquoi l'Allemagne a-t-elle une responsabilité particulière vis-à-vis d'Israël? Ces savoirs devront être acquis par les personnes qui veulent obtenir la nationalité allemande. Les précisions d'Aminata Demphal.
En Allemagne, les conditions de naturalisation vont bientôt connaître un changement. Des questions concernant l'Holocauste et le judaïsme seront posées à tout demandeur de la nationalité allemande. Une réponse pour la ministre de l'Intérieur Nancy Faeser à la montée de l'antisémitisme dans le pays.
l'antisémitisme, le racisme et toute forme de mépris de l'humanité exclut la possibilité d'être naturalisé. L'Allemagne a une responsabilité particulière envers les Juifs et l'État d'Israël après l'Holocauste, crime contre l'humanité qu'elle a commis.
Dans cet entretien accordé à un magazine allemand, elle évoque des questions susceptibles d'être posées lors du test pour la naturalisation. Comment s'appelle le lieu de culte des Juifs? Quand l'État d'Israël a-t-il été fondé? Ou encore, pourquoi l'Allemagne a-t-elle une responsabilité particulière vis-à-vis d'Israël? L'Association fédérale des centres de recherche et d'information sur l'antisémitisme a comptabilisé plus de 200 incidents entre le 7 et le 15 octobre 2023, une hausse de 242% par rapport à la même semaine en 2022.
Est-ce que ce serait une bonne idée de faire ça en France, justement, face à l'explosion de l'antisémitisme aujourd'hui, d'interroger les candidats à la nationalité française sur l'antisémitisme, sur l'Holocauste, par exemple ?
Alors autant, je pense que ça a du sens en Allemagne, parce que l'identité allemande, le patriotisme allemand, le rapport à la nation allemande est forcément marqué par l'adhésion massive du peuple allemand au nazisme et à l'antisémitisme racial dans le passé. Autant en France, c'est juste une élite qui a trahi, qui s'est couchée, qui a permis qu'au nom de l'État français, des crimes soient antisémites, soient commis. Jamais la masse des Français n'a supporté ou n'a été dans ce sens. La deuxième remarque, c'est ça fait penser au petit document que vous remplissez pour aller aux États-Unis. Est-ce que vous avez l'intention de tuer le président des États-Unis? Ah oui, bien sûr, je vais tuer le président des États-Unis. Non, mais la plupart du temps, malheureusement, les gens qui veulent une nationalité, c'est pour avoir droit au guichet social. Pas tous, bien évidemment. Mais on peut penser que
vous ils vont travestir leur pensée originelle pour satisfaire aux exigences.
Si parmi eux, il y a de véritables antisémites, si parmi eux, il y a vraiment des gens qui sont nocifs, nuisibles, et notamment, on peut penser à des islamistes, est-ce que vous pensez qu'ils vont dire oui, c'est vrai, je suis antisémite, et comme ça, je n'accepte pas la nationalité? Bon, c'est complètement naïf.
Ce qu'il faut revoir, c'est pas notre test de naturalisation, car comme le disait Guillaume Bigot, ça fait penser effectivement au questionnaire que l'on vous demande lorsque vous partez aux États-Unis. Donc ça, c'est bon pour nous. Je ne vois pas l'intérêt. Ce à quoi on devrait penser, c'est à éviter, je le répète, que des gens rentrent chez nous, c'est-à-dire à durcir les conditions de l'immigration. C'est une toute autre affaire.
Allez, 8h43 sur CNews. Le rappel de l'actualité. Marine Sabourin.
L'Indre-et-Loire et la Vienne en vigilance rouge pour risque de crue dans ces départements. Des dizaines de personnes ont été évacuées de leur logement dès hier. À Bouchard, en bord de Vienne, un EHPAD a été évacué dans la soirée. Les gendarmes et les sapeurs-pompiers sont mobilisés. La circulation sera difficile aujourd'hui et des coupures d'électricité sont à prévoir. Un adolescent de 17 ans mis en examen à Paris hier. Il a été placé en détention provisoire dans le cadre d'investigations sur l'envoi de menaces à des établissements scolaires via leur espace numérique de travail. Scolarisé, il n'a pas d'antécédents judiciaires de même nature. Il avait été interpellé jeudi à Malakoff dans les Hauts-de-Seine. Et puis ces nouvelles menaces de mort à l'encontre d'une professeure. Cela s'est passé le 7 mars dernier au lycée Michel-Ange de Villeneuve-la-Garenne dans les Hauts-de-Seine. Au nom d'Allah, je vais la buter. C'est ce qu'a déclaré l'élève après un désaccord avec son enseignante. L'élève a été exclu définitivement de l'établissement. L'enseignante a déposé plainte.
Vous en avez peut-être déjà été victime. Les arnaques sur Internet, elles sont de mieux en mieux ficelées et de plus en plus difficiles à déceler.
Sur les réseaux sociaux, des arnaqueurs vous promettent par exemple des placements très fructueux en seulement quelques clics. Alors pour lutter contre ce fléau, la police traque les cybercriminels avec de nouvelles techniques particulièrement efficaces. Antoine Estève a pu suivre pour CNews un service d'enquête très confidentiel à Bordeaux, l'OFAC, l'Office anti-cybercriminalité. Regardez.
Des placements financiers à 5, 7 ou même 10% de rendement net, des promesses de fortune rapides et discrètes. Sur Facebook ou LinkedIn, les arnaques se multiplient. Les victimes qui ont versé plusieurs milliers d'euros se retrouvent piégées par de faux banquiers. Ils les manipulent pour leur soutirer toujours plus d'argent.
On va toujours jouer sur les peurs. Ce sont toujours des sentiments humains qui sont utilisés. Par exemple, dans le cas du faux banquier, vous êtes piraté, il faut agir vite. Et pour ça, vous allez nous donner votre numéro de carte bancaire. Et il y a un coursier qui va venir pour récupérer la carte bancaire.
Agir discrètement et rapidement, fouiller des serveurs, parfois hébergés à l'autre bout du monde, c'est le quotidien des cyber-enquêteurs. Dans ce service, ils cherchent la petite faille qui va leur permettre de remonter jusqu'au téléphone ou à l'ordinateur de l'escroc. Chaque petit point de ce réseau est un serveur financier occulte.
L'intérêt de l'informatique pour les services de police ou de gendarmerie, c'est qu'on laisse toujours des traces. Tout est enregistré.
Le problème, c'est la multiplication des cas isolés. Les voyous d'une même fraude sont souvent déconnectés les uns des autres.
Il est beaucoup plus facile de faire une enquête, et on a plus de moyens d'enquête, quand on a 10, 100, 1000 victimes avec un fort préjudice, que quand vous avez une seule victime pour 200 euros, ou voire même 1000 euros.
C'est donc très important, en cas de suspicion d'arnaque, de déposer une plainte en ligne le plus vite possible, avant la fermeture des serveurs informatiques frauduleux et la disparition de tout l'argent déjà versé.
Et nous avons le plaisir d'avoir sur ce plateau Michel Chevalet. Bonjour Michel. Bonjour. Journaliste scientifique. Alors pourquoi je vous ai appelé? Parce que j'ai lu cette semaine dans la presse que la Terre tournait de plus en plus vite sur elle-même. Je me suis demandé si c'était pour ça que j'avais des nausées ou si c'était à cause du chocolat de Pâques. Mais ce n'était pas la question que je voulais vous poser. C'est pourquoi la Terre tourne de plus en plus vite aujourd'hui. Et j'ai eu beau lire quelques explications, je n'ai rien compris. Et je me suis dit, bon, Michel va nous expliquer tout ça très clairement.
Ah ben voilà. Voilà, c'est le coup de la patineuse. On va y revenir. Vous direz quel est le lien entre la Terre et la patineuse. Les mêmes lois de physique. C'est ce qu'on appelle la quantité de mouvement. Alors, explication. La Terre, c'est une grosse boule qui tourne très vite sur elle-même. 1666 km par heure à l'équateur.
Hein. Ah, quand même.
Et elle tourne à 100 000 km à l'heure autour du Soleil. Vous voyez, c'est des quantités d'énergie colossales. Et on pensait que la Terre tourne sur elle-même à vitesse constante. On s'est aperçu, parce qu'on a des horloges atomiques ultra précises, qu'en fait, elle tourne un peu comme une patate. Tantôt elle accélère, tantôt elle se freine.
Comme une patate.
Donc depuis son début, au moment de sa formation, elle tournait très vite, les jours étaient très courts. Et elle perd progressivement de l'énergie, on a le temps, on a encore 4 milliards d'années devant nous, elle perd de l'énergie en raison des marées, en raison des tremblements de terre, en raison de l'attraction de la Lune et du Soleil. Donc elle se ralentit. Et voilà pourquoi, de temps en temps, vous vous souvenez, on rajoutait une seconde. De temps en temps, on rajoutait une seconde. Voilà. Et puis brusquement, au milieu du siècle dernier, on s'est aperçu que, alors qu'elle se ralentissait, elle s'est mise à s'accélérer. On s'est dit, qu'est-ce qui se passe? Ah ben c'est ce qui se passe, c'est près du noyau.
Il y a un conducteur bourré au centre de la planète.
Hein, elle s'est accélérée. Et là maintenant, la nouveauté, c'est que d'un seul coup, il y a un nouveau coup de frein. Et on dit, quelle est l'origine de ce coup de frein? Alors là, ça vous suit bien fait. C'est la fonte des glaces des pôles. Quel est le lien entre les énormes masses de glace au Groenland et au pôle sud, qui sont en quelque sorte des balours, c'est des milliards de tonnes, leur fonte, la fusion, et puis le fait que ça va ralentir la rotation de la Terre? Ben, l'explication, c'est le coup de la patineuse.
Ah oui, parce que je ne comprenais pas la fonte des glaces.
Alors qu'est-ce que fait? Ben, vous avez compris. Votre patineuse, quand elle va vouloir tourner, elle donne une impulsion, il y a peu de frottement sur la glace, elle tourne, et quand elle veut tourner plus vite, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ramène les bras le long du corps. Autrement dit, les bras jouent le rôle des calottes polaires de la glace. Donc je concentre la masse sur l'axe de rotation. Et pour conserver la quantité de mouvement, elle tourne plus vite. Et quand elle veut se ralentir pour un nouveau mouvement, qu'est-ce qu'elle fait? Elle étend les bras. Et bien là, l'image, c'est la glace d'épaule s'amenuise à mesure qu'elles font. Donc vous voyez, c'est exactement les mêmes lois de physique.
Mais c'est le fait que l'eau... Je comprends pas, parce que quand vous avez un glaçon dans votre whisky, si le glaçon
fond, autre chose.
Le volume d'eau. Non mais si le glaçon fond, le volume d'eau.
Dans
le volume
la masse est constante. Attendez. La masse est constante.
La masse est constante.
La masse. Ben oui, que ça soit de la glace ou que ce soit de l'eau, la masse est constante. Elle s'évapore pas. Mais c'est simplement la position par rapport à l'axe de rotation.
D'accord.
Voilà. Donc la danseuse, c'est par rapport à son axe de rotation. Oh.
Je note quand même que Vincent Roy était déjà passé au whisky à seulement 8h49 du matin. Assumez, vous avez parlé du whisky dans votre référence.
Non, mais
c'est le coup du glaçon dans le verre.
Oui, je disais ça, la fonte des glaces, à partir du moment où le glaçon fond, le volume reste exactement le même. C'est pour ça que Michel Chevalier disait la masse ne bouge pas.
Bien entendu, mon cher Vincent, et je vous taquine.
Je voulais préciser.
Alors ce qui fait qu'on va être obligé d'enlever une seconde en 2029. Bah pour se mettre en conformité avec les horloges atomiques.
Ça ne nous perturbera pas davantage que le changement d'heure cette nuit. Hein, ça, je vous le dis. Les sports pour finir.
Que vous soyez le roi du design ou la reine des animaux, retrouvez votre programme avec Château d'Axe. Chez Château d'Axe, c'est vous les rois.
Ce programme vous est proposé par la maison horlogère Colin MacArthur et sa montre hommage Johnny Hallyday.
Allez Marine, un mot sur la 27e journée de Ligue 1.
Oui, Monaco s'est imposé sur la pelouse de Metz sur le score de 5 buts à 2. Monaco s'est donc provisoirement hissé à la deuxième place du classement aux dépens de Brest qui joue ce soir à Lorient. Les joueurs de la Principauté menaient déjà 3-0 après seulement 16 minutes de jeu face à Delorin à bout. Avec 49 points, Monaco accuse 10 points de retard sur le PSG en déplacement à Marseille ce soir pour la grande affiche de la journée.
Ce programme vous a été proposé par la maison horlogère Colin MacArthur et sa montre hommage Johnny Hallyday.
Que vous soyez la reine de la déco ou le roi du zen, c'était votre programme avec Château d'Axe. Chez Château d'Axe, c'est vous les rois.
On arrive à la fin de cette émission. Merci à tous mes invités sur ce plateau. Tout de suite, l'heure des pros week-end avec Elliot Deval. Et nous, on se retrouve même demain pour le lundi 1er avril, lundi de Pâques, avec Chana Lousteau et toute l'équipe de la matinale semaine. C'est à partir de 5h55. À demain et bonne journée à tous sur CNews. Joyeuse Pâques.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.